Vous écoutez
RMC.
Il est 7h sur RMC. Excellent réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trop de haine, c'est ce qui aurait motivé le geste prémédité de l'adolescent qui a poignardé sa professeure dans le Var. Il devrait être mis en examen ce matin pour tentative d'assassinat. Déformé en partie, cassé la couronne de génie miraculé du casse du Louvre, va pouvoir être restauré à l'identique. Et la nouvelle convention sur les transports sanitaires qui fragilise tout un secteur, celui des taxis, ils enregistrent une forte hausse de leur chiffre d'affaires, une forte baisse de leur chiffre d'affaires.
Reprise des cours progressifs ce matin pour les élèves du collège de la Guicharde à Sanary-sur-Mer.
Établissement sous le choc, 2 jours après l'agression au couteau d'une enseignante. Son pronostic vital est toujours engagé ce matin, touché à l'abdomen par l'un de ses élèves de 14 ans. Le procureur a requis son placement en détention provisoire. Il doit être déféré devant un juge d'instruction ce matin en vue de sa mise en examen. À l'issue de sa garde à vue, elle va prendre fin ce matin. Et devant les enquêteurs, Pierre Bazin, l'adolescent a tenté d'expliquer son geste.
Oui, face aux enquêteurs, l'adolescent de 14 ans reconnaît les coups de couteau et explique avoir prémédité son geste. Selon le procureur de Toulon, il reprochait à la victime d'avoir inscrit plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote, alors qu'il estimait cela injuste. Toujours selon le parquet, le suspect indique qu'il avait déjà envisagé de poignarder l'enseignante une semaine avant les faits, avant de se raviser. Mardi, rempli de haine selon ses explications, il a pris un couteau dans la cuisine familiale avant de se rendre au collège et c'est donc aux alentours de 14h30 qu'il porte 4 coups de couteau à l'enseignante. Après son acte, il dit avoir ressenti beaucoup de haine contre lui-même cette fois, le conduisant même à se porter des coups. La thèse du ressentiment est donc privilégiée. Aucun motif religieux ou politique n'a été relevé, selon le parquet de Toulon.
Autre cas de violence dans un établissement scolaire près de Lyon où une jeune collégienne a été violemment frappée à la sortie des cours vendredi dernier dans une vidéo publiée par un média local. À la demande des parents, voilà jeune adolescente recroquevillée au sol, frappée de plusieurs coups de pied à la tête par 2 autres jeunes filles. Une enquête a été ouverte. 3 mois après le casse du Louvre, une bonne nouvelle. La couronne de génie abandonnée par les voleurs endommagés a conservé sa quasi-intégrité. Elle va donc pouvoir retrouver son éclat, Rachel Sadodine.
Elle va donc pouvoir être restaurée à l'identique, sans recours à la reconstitution, autrement dit, sans ajout d'éléments nouveaux. Concrètement, la couronne de l'impératrice Eugénie a été écrasée, déformée lors du cambriolage. Les feuilles de palmier et les aigles, initialement placés en arc de cercle soutenant un globe coiffé d'une croix surplombant le bijou, se sont affaissés lors de l'extraction de la couronne de la vitrine. L'ensemble va pouvoir retrouver sa forme d'origine, mais une dizaine de petits diamants qui sertissaient les palmes et l'un des 8 aigles d'or manque toujours à l'appel. Un restaurateur sera donc bientôt désigné et compte tenu de la difficulté de l'ouvrage et de son caractère symbolique, il travaillera avec un comité d'experts présidé par la directrice du Louvre, Laurence Descartes.
Et les 8 joyaux dérobés lors de ce spectaculaire cambriolage restent, eux, toujours introuvables. Ils avaient alerté sur les risques pour leur métier au printemps dernier. Les taxis avaient bel et bien raison. Au dernier trimestre de l'année 2025, il y a eu 33% de défaillances d'entreprises pour le secteur selon une étude Altares, conséquence de la nouvelle convention de la Caisse d'assurance maladie en vigueur depuis novembre qui a entraîné, Marion Gauthier, une forte baisse du chiffre d'affaires pour ceux qui pratiquent le transport de malades.
Depuis 10 ans, emmener des patients du Maine-et-Loire en rendez-vous médical et depuis 3 mois, compter des courses qui rapportent moins, l'attente pendant qu'un patient est en consultation qui n'est plus totalement remboursée.
Il y a de la perte financière, ça c'est sûr. Je viens de me payer un salaire puisque j'ai vendu un véhicule.
Audrey a dû se séparer d'un de ses 3 salariés.
L'idée de couler la boîte, de faire une liquidation, commence à me trotter dans la tête. Liquidation veut dire mes 2 salariés au chômage, veut dire toutes les personnes que j'emmène. Ces gens qui sont pas entourés, ils vont se débrouiller tout seuls. Mais moi, il va falloir que je me sauve de là en fait. Une fille à finir d'élever, donc je voudrais bien finir droite.
La nouvelle convention avec l'assurance maladie accélère la crise de la profession pour le secrétaire de la Fédération nationale du taxi, Dominique Buisson.
De toute façon, avec 30 à 40% de baisse de rémunération, il y en a dans tous les départements, donc le marasme, il est généralisé. On nous a promis de faire une clause, soit dit, ce qu'on appelle de revoyure en mars, mais les entreprises qui seront défaillantes, elles sont dans le trou, on les a enterrées vivantes.
Avec toujours la concurrence des plateformes de VTC, le groupe d'études Altares confirme, taxi, c'est l'activité qui présente le rythme le plus élevé de faillite ces dernières années.
Un rendez-vous ce matin, 7h40 sur RMC. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, sera votre invité, Apolline, occasion de revenir avec lui sur l'une des mesures du budget obtenues au forceps par les socialistes. L'extension du repas à 1 € pour tous les étudiants dans les restos universitaires. Et ce, dès le mois de mai. Si l'initiative est saluée par les premiers concernés, syndicats étudiants et personnel du Crous s'inquiètent du coût de la mesure estimée à 90 millions d'euros. Reportage à Paris, Louise Salé.
Entre 3,30 euros et 1 €, la différence est importante dans le budget de ces étudiants.
Ça fait un gain de pouvoir d'achat vraiment intéressant.
Même si certains redoutent que cette mesure ne fasse exploser la fréquentation.
Le Crous est déjà assez saturé. Enfin, la queue, elle est là, elle est jusqu'à dans la rue, etc. Donc c'est soit on fait plus de Crous dans Paris, soit non.
La mesure est évaluée à 90 millions d'euros, mais seul un tiers de cette somme est aujourd'hui débloqué. Le ministère de l'Enseignement supérieur assure que le reste suivra, mais le salarié d'un restaurant universitaire redoute que le financement de l'État ne soit pas à la hauteur. Il témoigne sous couvert d'anonymat.
Le Crous est déjà très endetté. Hein. Un plateau repas, ça revient à 12 ou 13 euros à faire et c'est vendu 1 € ou 3,30 €. Vous voyez, ça s'en sort pas, quoi.
Sa direction n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Le sociologue Olivier Galland estime que cette mesure est mal ciblée.
Il y a environ 10% des étudiants qui sont dans une situation de grande précarité. Et c'est pas cette mesure générale qui va résoudre leurs problèmes.
Il la juge même contre-productive, car ceux qui en ont le plus besoin pourraient être privés de repas, faute de place.
À la veille de l'ouverture des Jeux de Milan, Cortina, l'Italie dit avoir déjoué une cyberattaque d'origine russe. Des sites du ministère des Affaires étrangères ont été ciblés. C'est le cas aussi, Julie Brault, de plusieurs sites liés à l'organisation de l'événement.
Oui, plusieurs hôtels censés accueillir de nombreux touristes lors de ces JO d'hiver ont été visés par des cyberattaques selon le gouvernement italien. Le système informatique d'un hôtel de luxe de la ville de Cortina a particulièrement été affecté. Son site web a été saturé, rendant la totalité de ses services en ligne indisponibles. Selon les médias locaux, cette cyberattaque a été revendiquée par le groupe pro-russe No Name 056, les mêmes hackers qui avaient revendiqué l'attaque massive en France contre le groupe La Poste pendant les fêtes de Noël. Dans un communiqué, le gouvernement italien a réaffirmé hier que des cyberpolicers seront actifs toute la durée des JO pour protéger les infrastructures et le réseau informatique, notamment pour prévenir d'éventuelles menaces terroristes.
Des Jeux d'hiver qui ont débuté par un couac hier, panne d'électricité de quelques minutes sur les épreuves anticipées de curling. À suivre aujourd'hui les joueuses de l'équipe de France de hockey sur glace face à l'Italie dans une patinoire où il manque encore quelques coups de peinture. Vous ne manquerez rien en tout cas de ces Jeux Olympiques, tous les temps forts de la compétition à vivre en direct sur RMC, radio officielle des Jeux de Milan Cortina.
Et puis un autre rendez-vous ce soir, 21h10 en rugby.
Le coup d'envoi du tournoi des Six Nations, les Bleus remettent leur titre en jeu, ça commence au Stade de France face à l'Irlande et puis le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Ce sera juste avant Strasbourg-Monaco. Ce soir, le vainqueur de ce match rejoindra Toulouse, Nice, Lyon, Lorient et Lens qualifiés hier soir après Reims et Marseille la veille.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 sur RMC. Vous saviez-vous combien ça coûte vraiment les soins en France? 20 € une prise de sang, 60 € une radio et une jambe ou un bras cassé, c'est 60 000 à 70 000 euros. Personne ne vous enverra vraiment la facture, mais il faut quand même savoir effectivement combien ça coûte en vrai. Bonjour Marie-Pierre de Bayancourt, vous êtes la directrice générale de l'Institut Montaigne et vous avez publié un rapport hier dans lequel vous réclamez de rendre visible le coût réel des services publics, une sorte de réveil des consciences en quelque sorte, savoir ce que l'État paye vraiment pour nous. C'est votre parti pris dans un instant et je vous attends au 32-16 pour venir réagir au 32-16 par téléphone ou sur le WhatsApp 06 12 424 424. À tout de suite, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Excellent réveil à tous. Sur RMC et RMC Story, on parle ce matin du coût, du vrai coût des choses. 20 € pour une prise de sang, 60 € pour une IRM, 1 300 € pour une journée d'hospitalisation. Personne ne connaît vraiment ces chiffres. Bah oui, parce qu'on ne reçoit jamais la facture. Voilà ce que coûte réellement la santé en France. Bonjour Marie-Pierre de Bayancourt. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'Institut Montaigne. C'est un centre de réflexion libérale. Et votre idée, c'est de dire qu'au fond, rien n'est jamais vraiment gratuit. Et qu'il faut un choc des consciences. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça culpabilise?
Alors justement, dans ce travail qu'on a fait avec Jean-Dominique Senard, donc du Monde économique, et Jean-Louis Bourlange du Monde politique, on a voulu mélanger ces expertises privées et publiques pour justement ni être dans la morale, ni être dans la culpabilisation, mais être dans le réveil, le choc des consciences, parce qu'on est dans une impasse aujourd'hui en France et qu'on ne peut plus réformer la France. Alors pourquoi on peut pas la réformer? On a essayé de remonter à la source, un peu comme les saumons, et se dire quelle est la cause racine de cette impossibilité à réformer. Et on s'est dit, c'est la dilution des responsabilités à tous les niveaux, l'État, les entreprises, les collectivités, les citoyens.
En fait, on s'attend à ce que tout le monde paye pour nous, sans en avoir vraiment conscience. Hélas, on va s'arrêter un instant sur la santé, mais au fond, vous posez la même question sur les transports, sur l'éducation, sur les études. Alors concrètement, comment est-ce que vous aimeriez qu'on fasse? C'est-à-dire que quand on sort de chez le médecin, on ne paye pas, mais comment on nous donne une facture pour nous dire ce que les soins qu'on a reçus ont vraiment coûté?
La responsabilité, c'est trois choses. C'est d'abord la transparence. Je sais de quoi cela retourne. Je sais ce que ça coûte, je sais qui doit faire, je sais les conséquences de mes actes. Donc effectivement, on n'est pas en train de dire on va changer le système de solidarité sociale, on est en train de dire on va donner
à
voir. Vous ne
demandez pas aux gens de payer.
Non.
Vous dites juste, au moins sachez ce que ça coûte.
Exactement. En France, on est le pays, par exemple, qui a le plus faible taux d'adhésion thérapeutique. C'est-à-dire on gaspille le plus de médicaments. On commence sa plaquette, on la jette. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Dans l'esprit des gens.
Voilà, parce qu'on a l'impression que ça ne coûte rien.
Exactement. Alors ça coûte. Donc pour répondre à votre question, par exemple, vous dites une journée d'hôpital, c'est pas 1300 euros. Une journée d'hôpital, c'est 10 000 euros. 1300 euros, c'est ce que ne paye pas la sécurité sociale. Donc la solidarité nationale paye à peu près 8 000 euros à 8 500 euros. Le reste sont les mutuelles ou, pour ceux qui n'ont pas la chance d'en avoir, les patients eux-mêmes. Mais ce qu'on demande, c'est que ce coût total soit visible sur chaque acte, sur chaque commande de médicaments, sur chaque hospitalisation, pour que les gens se rendent compte que leurs impôts, leurs contributions servent à la solidarité nationale.
Quand vous dites, par exemple, qu'une jambe ou un bras cassé, c'est entre 60 et 70 000 euros, vous avez fait le calcul de l'ensemble de ce que ça coûte. C'est-à-dire à la fois le coût de l'intervention elle-même, c'est-à-dire appeler, je sais pas, les pompiers, l'ambulance, le soin à proprement parler, la radio, l'opération, mais c'est aussi le coût de l'arrêt de travail pour la collectivité. C'est cet ensemble-là dont vous voulez faire prendre conscience.
Oui, alors ce chiffre n'est pas vraiment dans le rapport, c'est un amalgame de beaucoup de choses qui est repris, mais c'est une manière de dire rien n'est anodin et tout coûte. Quand vous êtes un taxi londonien, un épicier londonien, et que du jour au lendemain, vous voyez votre retraite, vos économies fondre ou le loyer exploser, vous êtes responsable et vous adaptez vos comportements. En France, cette invisibilité des coûts a rendu les gens, inconscient de vraiment ce que ça coûte au collectif. Et comme aujourd'hui, on est arrivé en butée, on est dans une impasse.
Parce que, effectivement, l'État a de plus en plus de mal à faire face à tous ces coûts, vous appelez à une forme de responsabilisation. Je voudrais qu'on puisse accueillir aussi Fatima, qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Fatima.
Bonjour.
Vous travaillez dans les assurances, justement. Vous vouliez dire qu'au fond, si on veut vraiment savoir, on peut.
Absolument, tout à fait. Il faut juste être un petit peu curieux et puis aller juste regarder sur Amélie et les relevés de compte qu'on reçoit plus maintenant par courrier. Mais à titre personnel, j'ai rarement été malade, mais depuis plus d'un an maintenant que je suis suivie pour un cancer. Et effectivement, par curiosité, comme je ne paye pas, mais je sais quand même que c'est la Sécu qui règle directement l'hôpital. Et puis par curiosité, effectivement, je suis allée vérifier sur mes relevés et on voit clairement ce que la Sécu verse.
Vous avez vu par exemple pour votre cas, Fatima?
Oui, pour mon cas par exemple, en ce moment je suis en chimiothérapie toutes les trois semaines. Et toutes les trois semaines, je vois que mon traitement coûte 4900 euros à la Sécu. Et ça va être pendant 14 semaines. Donc quelque part après, on relativise, effectivement, on paye beaucoup d'impôts, mais on sait pourquoi. Et c'est vrai qu'il faudrait un petit peu plus de transparence. Je suis complètement d'accord avec votre invité aujourd'hui.
Je trouve ça très intéressant parce qu'avec votre cas, Fatima, on voit que ça ne vous a pas culpabilisé du tout. Ça vous a réjoui aussi de vous dire que l'État était là pour vous.
Absolument, absolument.
Je l'entends
exactement,
dans vos...
parce que aujourd'hui, en étant un arrêt maladie et en me disant comment se soigner si c'est pas l'État qui paye ses 4900 euros toutes les trois semaines pour moi. Et après je sais derrière que ce sont tous les impôts qu'on a payés depuis années qui permettent, mais c'est pas suffisant. Donc il faudrait peut-être responsabiliser un petit peu et puis responsabiliser un petit peu tous ceux qui râlent. Mais effectivement, c'est quand on se retrouve dans la situation qu'on a
ce réflexe ou cette envie d'aller chercher l'information. Merci Fatima et bon courage effectivement donc dans votre combat quotidien. On est avec vous Fatima. 7h19, une autre question avec vous Marie-Pierre de Bailliencourt. On a parlé de la santé, mais est-ce que cette attitude là, c'est-à-dire l'idée de transparence sur les prix pour responsabiliser, ça pourrait être appliqué à d'autres services publics que la santé, c'est-à-dire je pense au transport, je pense à l'éducation. Est-ce que vous souhaiteriez que cette démarche elle soit appliquée également à ces domaines-là?
On rentre là dans une campagne municipale et on sait qu'une des préconisations de campagne favorite des maires, c'est la gratuité du transport public. Or, ça n'existe pas, la gratuité du transport public. Si c'est pas l'usager qui paye, c'est quelqu'un d'autre. Ce sont les taxes des entreprises, ce sont les dotations gouvernementales, ce sont les impôts locaux. Et comble, quand on fait des sondages, on se rend compte que, un, la plupart des Français ne demandent pas la gratuité du transport, mais demandent la sécurité, la propreté, la régularité ou l'étendue des trajets, mais ne demandent pas la gratuité.
Oui, ils préfèrent payer, mais qu'au moins ce soit sécurisé, efficace.
Exactement. Et ensuite, on se rend compte que même pour des principes d'écologie, il n'y a pas de ce qu'on appelle le report modal. C'est pas parce que le transport est gratuit que vous allez abandonner votre voiture pour prendre ce transport. Donc là, on a plutôt envie de dire il faut payer. Et donc, notre recommandation, c'est de dire montrer le coût total sur le ticket de transport de ce que ça coûte au collectif. Évidemment, permettre aux personnes les plus fragiles ou les plus nécessiteuses d'être exonérées de ce paiement, parce que quand on cherche un emploi ou quand on a des revenus particulièrement faibles, oui, mais pas en faire une généralité.
Et dans un sens, ça m'inspire aussi une question pour mon invité à 7h40, ce sera le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Enseignement supérieur, avec cette question, les repas à 1 euro pour tous les étudiants. En vrai, comme on vous écoute, ça ne coûtera pas 1 euro. Ce sera pour tout le monde. Donc, les plus modestes qui en ont vraiment besoin, mais aussi ceux qui pourraient éventuellement payer ces repas. Et donc, c'est une vraie question aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Marie-Pierre de Bailliencourt, donc directrice générale de l'Institut Montaigne. Vous continuez à réagir. Et un merci particulier à Fatima d'être intervenue au 32-16. Il est 7h21 et Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Notre historien maison qui va remonter le temps. C'est demain officiellement que les JO d'hiver vont débuter. Les épreuves seront évidemment à suivre sur RMC. Arthur, à quand remontent les premiers Jeux à la montagne?
Eh bien, c'était en 1924 et c'était en France, à Chamonix. Et vous verrez, les premiers JO d'hiver, c'était spécial. Hein. Il y avait même une course de chiens de traîneau.
Vous allez nous le raconter dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demanche qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 20 secondes, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 et on va remonter le temps, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Demain, c'est la cérémonie d'ouverture des 25e Jeux Olympiques d'hiver. Les épreuves vont durer jusqu'au 22 février. Ça se passe en Italie.
Oui, dans deux endroits différents. Hein, les épreuves auront lieu dans la ville de Milan et dans une station de ski des Alpes qui s'appelle Cortina d'Empenzo. Cette station a d'ailleurs déjà accueilli des JO d'hiver. C'était en 1956.
Ça date de quand, les JO d'hiver?
Alors, les premiers ont eu lieu en 1924. C'était en France, hein, à Chamonix. Les JO d'été modernes existaient, eux, depuis 1896, et comme les JO d'hiver, c'était complètement nouveau, et qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, eh bien, on n'a pas voulu appeler ça tout de suite Jeux Olympiques. Hein. On appelait ça la Semaine Internationale des Sports d'Hiver, et finalement, puisque tout s'est très bien passé, eh bien, on a donné le titre officiel de JO d'hiver juste après cette première édition de 1924.
Les épreuves, c'était déjà à peu près celles qu'on connaît aujourd'hui?
Alors au début, il y en avait beaucoup moins. Et surtout, certaines disciplines qui font aujourd'hui partie des JO d'hiver étaient en fait à l'origine des épreuves des JO d'été. Et vous allez être surpris par ces disciplines. Par exemple, le patinage artistique. Eh bien en fait, ça a commencé aux JO d'été de 1908 à Londres. Pareil pour le hockey, ça a commencé en 1901, mais aux JO d'été d'Anvers. On a ensuite rapatrié ces disciplines dans les JO d'hiver, en fait parce que c'était plus logique.
Hein. Oui, évidemment. À une époque, il y avait même des épreuves avec des animaux.
Et oui, incroyable mais vrai, c'était dans une catégorie qui s'appelait sport de démonstration. Et alors, dans cette catégorie, il y avait un sport complètement absurde qui s'appelait le ski joeyring. Alors voilà à quoi ça ressemble. Vous étiez sur des skis tirés par des animaux. Alors en général, c'était un cheval, un poney ou un chien. Alors,
c'est génial.
Et d'ailleurs, une année, en 1932, aux JO d'hiver, il y a même eu une épreuve de course de chiens de traîneau.
On avait quand même déjà eu des problèmes de neige.
Et oui, et à l'époque, il n'y avait pas de canon à neige artificiel comme aujourd'hui, donc ça compliquait tout. En 1964, au JO d'Innsbruck, en Autriche, on a frôlé la catastrophe. Il n'y avait pas assez de neige, alors comment faire? Eh bien, c'est carrément l'armée autrichienne qui est intervenue. Elle a été chercher 40 000 mètres cubes de neige tout en haut des montagnes pour les redescendre sur les pistes où avaient lieu les épreuves de ski. Imaginez un peu la performance.
C'est l'ancêtre des canons à neige. Voilà. Donc, certains athlètes parviennent même à être médaillés aux JO d'hiver et aux JO d'été.
Et oui, c'est arrivé plusieurs fois et ça concerne vraiment des sports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le premier athlète à avoir réalisé cette performance, c'est Edward Egan, un Américain. En 1920, aux JO d'été d'Anvers, il est médaillé d'or en boxe anglaise. Et en 1932, aux JO d'hiver de Lake Placid, il remporte encore une fois l'or, mais cette fois-ci en bobsleigh.
Ah bon?
Eh oui, rien à voir. Plus récemment, c'est arrivé, l'américaine Lauryn Williams a remporté l'argent aux 100 mètres des JO d'Athènes en 2004. Et 10 ans plus tard, en 2014, elle remporte à nouveau l'argent, mais cette fois-ci en bobsleigh aux JO de Sochi.
Bobsleigh, c'est quand même... c'est la niche de ceux qui veulent l'été et l'hiver.
Oui, c'est vrai.
Qui veulent s'occuper et l'été et l'hiver.
C'est vrai.
Merci Arthur. Et RMC, bien sûr, radio officielle de ces Jeux Olympiques d'hiver de Milan Cortina. Médaille française, moment décisif, vous ne raterez rien de ces JO en écoutant RMC. 7h25, Arnaud Demange.
RMC.
Demange
pirate,
face à face.
Salut Arnaud, dans Bonjour. Le face à face, Bonjour. Tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois le plus haut magistrat de France, le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz.
Oui, Cour de cassation, son métier c'est de casser des jugements, c'est le Brice de Nice des affaires judiciaires. Tu prends un dossier...
Et tu casses.
Tu casses pas toujours, mais tu casses parfois. Je pense que Marine Le Pen aimerait bien qu'il casse par exemple un jour. Jordan Bardella, lui par contre, il lui a laissé un petit mot dans la loge des invités. J'ai lu, il a mis « Rémi Heitz, poule mouillée, t'es pas capable de condamner la vieille. » Avec Rémi Heitz, on parlera du procès de Marine Le Pen, de l'affaire Epstein. Alors tiens, au fait, on dit Epstein ou Epstein? Parce que là, c'est difficile. Tout le monde a sa prononciation différente. On dit Einstein, on dit pas Epstein.
Oui, mais il est allemand.
On dit pas Einstein and the Queen. On dit quoi alors? Ma femme m'a dit on dit gros connard.
On peut se mettre d'accord là-dessus.
Marine Le Pen qui a parlé d'Epstein au procès, elle a dit... Quand on voit ces hommes politiques faire la fête avec des prostituées mineures, qu'ils droguent en buvant de l'alcool, en les trafiquant, en invitant Jack Lang, est-ce que détourner de l'argent du Parlement européen, c'est si grave que ça, finalement? Parce que c'est mal engagé, là, pour la présidentielle. Il y a l'inéligibilité. La menace du bracelet électronique. Mais après, je vais vous dire... Je serais même pas surpris qu'elle y aille quand même. Qui va l'arrêter, hein? Les policiers? Ils votent tous pour elle. Si les juges envoient les flics pour l'empêcher de faire quand même, ils font « Police nationale, madame !» On peut faire un selfie? Allez, bon courage! On est au temps du Trumpisme. Trump, il s'en foutrait. Il ferait campagne avec un bracelet électronique en or massif. On le verrait bien. Il aurait un t-shirt « Fuck me, I'm guilty ». Il sortirait un album de rap avec Puff Daddy. Pouah! Je vous le dis, si je retrouve Marine en featuring sur un album de Kalash Criminel, je suis même pas surpris. Néanmoins, les juges sont pas contents. Ils ont dit au procès, vous êtes avocate, vous connaissez les lois. Tu vois, t'as un cabinet d'avocats. T'as un code pénal, bah tu vas dans ton cabinet d'avocat puis tu lis ton code pénal. C'est comme dans les bronzés.
Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
C'est la même chose. Voilà. Bon alors, Marine est avocate, mais faut reconnaître que les avocats français sont nuls en droit. Hein. Devant les juges, on a déjà eu Sarkozy, avocat, Balkany, avocat, Juppé, avocat, Dati, avocate. Hortefeux, avocat. Faut vraiment qu'on réforme cette filière. C'est la cata absolue. Faut en parler à Rémi Heitz à 8h30.
Merci Arnaud. Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment aussi en direct à 8h20. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dingen. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des dégâts énormes pour des butins complètement dérisoires. Les cambriolages de boulangeries en hausse, mais pas n'importe quelle boulangerie. Ce sont principalement celles équipées de monnayeurs automatiques qui sont visées. Elles sont complètement à sec. Les 75 universités françaises sont dans le rouge dès le début de l'année. C'est une première et on vous explique pourquoi dans ce journal. Et puis il a vu son destin basculer le soir du Nouvel An. Témoignage à suivre d'un des rescapés de l'incendie de Crans-Montana, le jeune joueur du FC Metz, Tairis Dos Santos.
Les boulangeries sont menacées.
Ce sont les derniers commerces où les espèces circulent encore en grande quantité. Et ça, les cambrioleurs l'ont bien compris. Mais ce qu'ils recherchent précisément, ce sont celles qui sont équipées de monnayeurs automatiques. Ces machines qui récupèrent vos pièces et vos billets pour vous rendre automatiquement la monnaie. Des boulangeries ultra ciblées et ce, partout en France. On l'a vu ce matin au 32-16, mais c'est surtout la région parisienne qui morfle. Avec déjà une trentaine de braquages ces deux derniers mois, Célestin Bougère.
Il est minuit passé le 4 janvier dernier dans cette boutique de Bonnières-sur-Seine quand le silence est brisé par un bruit sourd. Sur les images de vidéosurveillance, on voit la porte vitrée de la boutique être fracassée. Un homme se dirige tout de suite vers le monnayeur automatique. À l'aide d'un tournevis, il déboîte la caisse en quelques secondes. David Guiton n'a pu que constater les dégâts dans sa boulangerie.
Ça a pris 27-28 secondes.
Il y en a pour 220 euros de fonds de caisse volés, 6000 euros de caissons, 2500 euros de porte automatique. On a plus de matériel que d'argent. Psychologiquement, c'est pas facile.
À une quarantaine de kilomètres, Hamilton Dos Santos a également subi un braquage chez lui aussi. C'est le monnayeur qui a été visé. Résultat, 10 000 euros de préjudice pour lui.
De s'attaquer à des petits commerces comme nous, mais des artisans, on se lève tôt, on fait beaucoup d'heures, voilà, c'est vraiment triste.
Olivier Gérard est le président des boulangers des Yvelines, de l'Essonne et du Val d'Oise, les départements les plus touchés. Il a envoyé des recommandations aux artisans qui possèdent ces monnayeurs.
Le soir, il faut vider systématiquement ces caisses, les mettre dans un coffre à l'abri des regards.
Lui souhaite rendre possible l'installation de rideaux métalliques pour tous les boulangers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à cause de certaines règles d'urbanisme.
7h32, l'enseignante de Sanary-sur-Mer poignardée par son élève à cause de ses commentaires sur Pronote. C'est la raison invoquée par le collégien de 14 ans qui a reconnu les faits hier en garde à vue. L'adolescent confirme avoir prémédité son geste. Il avait même déjà failli passer à l'acte la semaine dernière. La violence dans les collèges et les difficultés financières dans les facs. Toutes les facs, c'est une première. Les 75 universités françaises commencent l'année dans le rouge. Et la raison, Bérangère Bocquillon, c'est qu'il y a beaucoup trop d'étudiants.
Ouais, les universités ont accueilli 200 000 étudiants de plus ces 10 dernières années. Mais il n'y a pas que ça, hein. Les salaires des enseignants, les factures d'énergie qui augmentent et l'État qui ne compense pas toujours. À l'université Montpellier 3, par exemple, la présidente nous explique qu'il y a 23 000 étudiants, alors qu'elle n'est calibrée que pour en accueillir 17 000. Il manque 60 enseignants titulaires. Chloé Delaporte est professeure des universités en études cinématographiques à l'université Paul-Valéry de Montpellier.
Depuis début janvier, je fais cours dans des salles qui ne sont pas chauffées. Des étudiants en manteau, des enseignants, enseignantes qui s'achètent, des ordinateurs qui impriment leurs documents, qui financent leurs déplacements professionnels dans des colloques, dans des congrès. Donc en fait, on paye pour travailler.
Et puis des amphithéâtres bondés, des étudiants qui ne peuvent pas être bien accompagnés par leurs professeurs. Certaines universités ont donc choisi une solution radicale pour enrayer leurs déficits. C'est de supprimer des places. C'est ce qui se passe à l'université de Lille, de Toulouse et de Rouen. Rouen qui a supprimé 700 places en première année de licence dans des licences très demandées comme le droit ou la psychologie, ce qui risque de laisser des bacheliers sans solution sur Parcoursup.
On en parle avec mon invité à 7h40, juste après votre journal, Élise. Ce sera le ministre chargé de l'enseignement supérieur, Philippe Baptiste. N'hésitez pas à venir aussi l'interpeller, à nous appeler, à témoigner de ce qui se passe dans les universités. Je vous attends au 32-16.
Lui ne connaît pas la crise. Le géant de l'acier, ArcelorMittal, présente ce matin ses très bons résultats 2025. Son action n'a jamais été aussi haute depuis 15 ans. Le groupe s'attend même à une augmentation de la production cette année. Et pourtant, des suppressions d'emplois se profilent et se confirment, Clara Gabillet.
Oui, ArcelorMittal est porté par un troisième trimestre solide, rassuré aussi par un contrat signé avec EDF pour de l'électricité à prix compétitif pendant 18 ans et n'a pas à craindre la concurrence chinoise grâce à un plan européen sur l'acier. Et pourtant, depuis une semaine, 1600 emplois sont menacés en France par une possible nouvelle délocalisation en Inde. Pilule difficile à avaler pour les salariés. Jean-Marc Vécrin, représentant CFDT.
Il n'y a pas de gêne, quoi. Comment qu'on peut en même temps annoncer de bons résultats en tuant carrément la sidérurgie en France.
D'autant plus incompréhensible pour le syndicaliste, car ArcelorMittal a reçu par exemple en 2023 300 millions d'euros d'argent public, notamment pour décarboner sa production.
On se réjouit de ça et on est content pour la société, parce qu'on pense que derrière, ça va pérenniser l'activité et forcément l'emploi. Force est de constater que c'est pas du tout ce qui se passe. Les députés européens qui sont en charge de l'industrie doivent à un moment donné prendre leurs responsabilités et dire maintenant c'est stop, quoi. Avoir au moins comme contrepartie qu'il n'y ait pas de licenciement, c'est le minimum.
Les syndicats promettent de se mobiliser dans les prochaines semaines. L'entreprise, elle, défend un modèle économique durable.
7h36 sur RMC. Il fait partie des rescapés du terrible incendie de Crans Montana dans lequel 40 personnes sont mortes la nuit du Nouvel An. Thaïris Dos Santos, jeune footballeur au FC Metz, a donné sa première interview hier à Paris Match. Il raconte la nuit du drame et les séquelles qu'il garde encore aujourd'hui, Clément Brossard.
Les bouclettes du jeune homme ont laissé place à des cheveux très courts. Sa peau, elle, témoigne de l'incendie.
Je suis en vie, c'est le plus important. Le physique, ça passe après.
De larges brûlures marquent son visage, ses bras, son dos, ses mains sont gantées. Brûlé à 30%, Thaïris Dos Santos garde de vifs souvenirs de la dramatique soirée. Il raconte à Paris Match que c'est en remontant des toilettes qu'il voit que l'établissement prend feu.
J'entendais beaucoup de cris, il y a eu un attroupement. Et au moment où j'étais dehors, j'étais assis par terre. Je n'arrivais plus à bouger. Mes amis, je ne savais pas s'ils étaient encore vivants ou pas. Du coup, je criais leur prénom et pas de réponse.
À la sortie de la boîte de nuit, une infirmière étudiante lui vient en secours.
On peut dire qu'elle m'a sauvé la vie, oui. Elle me réconfortait. Je lui avais demandé de me prendre en photo pour mes parents et que si je ne devenais pas footballeur professionnel, je sauverais des vies comme elle.
Les jours qui suivent sont un périple. Thaïris passe d'un hôpital à un autre, Sion, Stuttgart, puis Metz. Après d'intensifs soins, l'heure est désormais à la réparation.
Je me concentre pas trop sur le foot. Le plus important, c'est que je me rétablisse bien, réutiliser mes mains, à bien remarcher. Après, on verra.
Dans un post sur X relayant la vidéo de Paris Match, son agent l'assure, Thaïris Dos Santos reviendra un jour sur les terrains de football.
Lui fait son grand retour avec les Bleus du 15 de France. Antoine Dupont, capitaine ce soir pour le match d'ouverture du tournoi Destination face à l'Irlande. Coup d'envoi à 21h10 à vivre sur RMC.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Global Concept. L'outsider, c'est le 13, Die Hard.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des amphis surchargés, des travaux dirigés avec parfois 50 étudiants face à des profs, eux-mêmes obligés parfois d'acheter les fournitures pour faire cours. Les universités sont en crise. Bonjour Philippe Baptiste.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur. Alors tout ne va pas si mal, évidemment, c'est ce que vous allez tenter de nous dire dans un instant. Et puis je vous interrogerai aussi sur ce fameux repas à 1 euro, la promesse de ce budget. 1 euro pour tous les étudiants, oui, mais où trouver le financement? Et vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être étudiant, ou alors vos enfants le sont, ou alors vous êtes même prof, tiens. Appelez-nous au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Très bon réveil et très belle journée à tous. Il est 7h41 à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Story. Nombre d'étudiants qui explosent et budget insuffisant. Les universités disent être au bord de la faillite. Bonjour Philippe Baptiste.
Bonjour.
Vous êtes le ministre chargé des universités puisque vous êtes chargé de l'enseignement supérieur. Voilà le tableau qu'ils nous font. Des amphis surchargés, des travaux dirigés avec parfois près de 50 étudiants, des salles sans chauffage. Je voudrais que vous écoutiez les mots du président de l'université de Rouen-Normandie, Franck Lederf. Il est interrogé par la chef du service société d'RMC, Bérangère Bocquillon. Écoutez ce qu'il dit de sa faculté.
Au mois de septembre, oui, j'ai réduit à peu près de 700 places, le nombre de places en première année. On va réduire considérablement le nombre de travaux dirigés. On n'ouvre pas aussi des formations à faible effectif. Je réduis aussi mes recrutements. Ma campagne d'emploi va être diminuée par 3 hein, cette année. Et malgré ça, j'ai un déficit de 11 millions d'euros.
Les universités qui commencent l'année avec un budget déjà en déficit.
Alors, je ne vais pas commenter spécifiquement la situation de l'université de Rouen. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le nombre de places aujourd'hui qui sont disponibles sur Parcoursup, pour parce que les jeunes, les bacheliers là, qui sont en train de passer, enfin, qui préparent leur baccalauréat, c'est quand même, je veux dire, enfin, le nombre de places est stable globalement en France. Alors, il peut y avoir des endroits où ça baisse, des endroits où ça monte, mais globalement, il y a une stabilité complète. Il y a 25 000 formations qui sont disponibles. Et je rappelle que l'an dernier, juste peut-être un tout petit peu pour rassurer, pour qu'il n'y ait pas un message qui soit excessivement anxiogène envers les bacheliers, il y a, enfin les futurs bacheliers, pardon, l'an dernier, à la fin de la campagne Parcoursup, il y avait une trentaine de jeunes pour lesquels on avait une difficulté, on n'arrivait pas à trouver une place.
Une trentaine de jeunes sur toute la France ?
Jeunes sur 1 million au début qui étaient sur la plateforme. Donc, je voudrais rassurer tout le monde. Tous ceux qui veulent suivre des études supérieures demain vont trouver des places. Maintenant, après, sur la situation budgétaire globale des universités, je voudrais dire d'abord que c'est une terre de contraste. Il y a des établissements qui vont très bien, il y a beaucoup de formations qui ont des très bonnes dynamiques. On forme quand même, on a des formations qui sont quand même d'excellence, enfin, des universités, des grandes écoles,
des BTS, des IUT qui fonctionnent très très bien. Les jeunes qui sortent, ils sont embauchés, ils trouvent de l'emploi. Certains nombres de filières sont hyper attractives dans le monde entier. Donc je voudrais un tout petit peu relativiser le discours. Maintenant, qu'à un tel endroit ou à tel autre, on ait des difficultés, oui, c'est vrai, je dirais absolument. Que des formations ferment, mais c'est bien normal. Je veux dire, enfin, des formations.
Ça vous choque pas ça? Mais non, ça vous paraît en fait la vie de la recherche.
Il y en a qui ferment, il y en a qui ouvrent. Après, la question, c'est est-ce que, par exemple, au niveau master, on a besoin d'autant de différents types de masters partout dans le monde ou de parcours de master où on en a des centaines, il y en a qui contiennent 5, 6, 10 étudiants. Est-ce qu'on a besoin de tous les garder? Est-ce qu'il y en a certains qu'il ne faut pas regrouper? Non, pas les fermer. Hein,
mais parce que certains deviennent aussi obsolètes peut-être par rapport à la vie professionnelle.
Je pense que c'est des questions, mais c'est comme dans tous les secteurs. Je veux dire, c'est normal qu'on se pose ces questions-là. C'est normal qu'il y ait une dynamique. C'est la liberté académique des universités qui doivent vivre cette liberté avec les contraintes qui sont les contraintes du budget. Je voudrais juste rappeler quand même un chiffre. Hein. Je veux dire, globalement, mon ministère aujourd'hui, c'est 32 milliards d'euros. C'est la quatrième dépense de l'État. L'État investit pour les jeunes, investit pour la recherche. Et dans les dernières discussions budgétaires, vous le savez, on a trouvé 350 millions d'euros de plus par rapport au budget de l'année passée. Donc, il y a une vraie.
Alors, on va y revenir. Mais il y a aussi cette question. Vous dites, bon, est-ce qu'il y a certaines filières qui doivent aussi être fermées, d'autres ouvertes? Il y a aussi cette question quand même de l'accueil du modèle même de l'université. Vous le dites, tous ceux qui veulent aller à l'université pourront aller à l'université, mais il y a un très fort taux d'échec en licence. Est-ce que la sélection, alors c'est un très gros mot pour les universités, mais doit être revue?
Alors, il y a... sujet qui est un sujet évidemment compliqué en soi. Le modèle aujourd'hui en France, c'est dire vous avez le baccalauréat, quelque part vous avez le droit à une place, et c'est bien ça qui est, et c'est bien ça qu'on met en œuvre. La difficulté, c'est quoi? C'est que la massification, elle s'est faite essentiellement à la fois dans les universités, à la fois par une explosion démographique, c'est-à-dire beaucoup plus de jeunes qui arrivent en tranche d'âge, et puis en même temps aussi des taux de succès au baccalauréat qui ont pris 10 points en 15 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bac général, 97,7%.
Oui, tout le monde l'a, quoi, désormais. Hein.
Et donc, on a une vraie difficulté aujourd'hui, parce que nos universités, à la fois, ont développé des parcours d'excellence où il y a des très très bons élèves, et puis d'autres qui sont en très grande fragilité. Et donc, c'est compliqué, c'est tendu. La question derrière, moi, mon problème, c'est pas tellement la question théorique, c'est juste qu'aujourd'hui, on promet à des jeunes, aujourd'hui, un accès à l'université qu'on donne, mais qui ne mène parfois à rien parce qu'ils n'ont pas le bagage initial.
Et parce qu'ils vont se retrouver parfois en difficulté pour passer dans les années supérieures.
Voilà. Et donc c'est ça.
Yacine est avec nous au 32-16 qui nous appelle de Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Bonjour Yacine.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes vous-même étudiant, c'est ça? Racontez-nous.
Tout à fait. Ben, écoutez, je suis étudiant en Master 2 en droit des affaires, donc à l'UPEC de Créteil.
Ok.
Donc quand j'entends, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, monsieur, quand je vous entends dire que entre guillemets, excusez-moi de grossir le trait, tout va bien, entre guillemets, ça me fait doucement rire. Vous savez, j'ai commencé il y a 4 ans et demi maintenant les études, donc en licence en première année. On était, je pense, je vais vous grossir la chose, peut-être 700 dans un amphithéâtre. J'étais dehors, je ne pouvais même pas rentrer à l'intérieur. Là, désormais, on est un peu moins, donc c'est beaucoup plus facile. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles travaillent les professeurs, on voit qu'ils n'ont même plus envie de nous faire apprendre. C'est de plus en plus compliqué. Quand je vois les jeunes qui postulent via Parcoursup, qui malheureusement se font rejeter, parce que je l'ai été malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Et je pense que c'est même plus une question, la question n'est plus seulement de savoir combien de places est-ce qu'on peut avoir justement dans les facs, etc. Ouais. Mais c'est même au niveau de la qualité de l'enseignement qui n'est plus du tout ce qu'elle était. Moi, je revois ce que j'ai pu voir au début en licence ou même en mes premières années, etc. Ça n'a rien à voir avec ce que j'apprends maintenant. Vous voyez, l'UPEC de Créteil, si un jour vous avez l'occasion de vous y rendre, je vous y inviterai vraiment volontiers. C'est vraiment dans un état de délabrement, j'emploie le terme, vraiment incroyable.
Aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment, au-delà de la question effectivement des amphis surchargés, que la qualité de l'enseignement, parce que vous êtes déjà très avancé en Master 2, est-ce que la qualité de l'enseignement quand même vous satisfait?
Pas du tout, pas du tout. Je vous le dis très concrètement. Et en plus, j'ai cette chance-là d'être socialement parlant assez proche des formateurs avec qui je peux être amené à échanger régulièrement.
Vous impliquez quoi?
Bah, dit oui, je m'y implique parce que j'ai envie de réussir et j'ai envie d'apprendre. Et vous voyez ce que eux vous disent justement de leurs conditions de travail et puis même des relations qu'ils ont avec leurs collègues. Il y en a quelques-uns, je vous dis honnêtement, si c'était pas pour nous, ils ne seraient plus là depuis bien longtemps. Ils en souffrent vraiment.
Ils en souffrent eux aussi. Yacine, je voudrais que le ministre puisse vous répondre.
D'abord, merci de l'invitation, mais il se trouve que je vais régulièrement dans les universités. Donc j'étais à l'UPEC il y a quelques mois justement, donc j'ai eu le plaisir déjà de venir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi j'ai vu des enseignants qui étaient hyper motivés, qui étaient dédiés et qui consacraient leur.
Mais c'est ce que dit Yacine. Mais il dit qu'en même temps, ils ont des conditions terribles.
Et la qualité de l'enseignement, elle est forte. Après, c'est une université qui fait un gros effort, qui a un bassin de recrutement sur un endroit où il y a une très grande diversité sociale, qui justement fait l'effort d'amener tout le monde et d'emmener tout le monde vers la réussite. Et moi, je voudrais saluer leur travail. Après, encore une fois, je veux dire, qu'il y ait des difficultés à tel endroit, que votre auditeur soit pas content peut-être de...
Il y a un problème de gestion des universités.
Non, l'idée
d'avoir donné une sorte d'autonomie de gestion des universités, est-ce que puisque vous parlez de cette diversité aussi au sein des universités où certaines vont bien, d'autres mal, est-ce qu'il y a un problème aussi de responsabilité des universités elles-mêmes dans leur gestion du budget?
Alors, je pense que évidemment, on a 70 universités et aussi 200 écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc. Et ces établissements, ils ont une forme d'autonomie. Donc, effectivement, la manière dont ils sont gérés à la fin individuellement, ça a un impact sur le moyen, sur le long terme, puisqu'ils bénéficient d'une très très grande autonomie. Ça n'a, juste pour que vos auditeurs aient bien conscience, ça n'a rien à voir avec un lycée où les choses.
Vous sont leur donnez l'enveloppe et eux, ils s'en débrouillent.
Exactement. C'est eux qui décident de leur carte de formation, qui investissent, qui décident du nombre de formations, des recrutements. Donc, c'est une forme d'autonomie. Après, il y a le budget que nous, on donne évidemment le budget qu'ils vont aller chercher aussi à l'extérieur, à travers des appels d'offres, etc. On va discuter de tous ces sujets-là. Tous ces sujets-là, on va les ouvrir. Il va y avoir des assises. Il y a des assises qui, en ce moment, là, qui ont commencé. Des assises de financement d'enseignement supérieur et de financement des universités. Il faut qu'on travaille sur ces questions-là.
Est-ce que la question de l'autonomie pourrait même être mise en cause ?
L'autonomie, non, parce que l'autonomie, moi, je crois fondamentalement au fait que derrière le mot d'autonomie, il y a les libertés académiques. Il y a le fait que quelque part, c'est pas un gouvernement qui décide directement de ce que fait telle ou telle université. Et ça, c'est fondamental en termes de liberté publique. Par contre, après, la question d'effectivement de la manière de la gestion des universités, la gouvernance.
La gestion, j'allais dire, presque comptable et gouvernance. Une autre question juste avant de vous laisser partir, monsieur le ministre, sur le repas à 1 €. Quand on voit que la situation est, en tout cas dans certaines universités, déjà très tendue, cette promesse du repas à 1 € pour tous les étudiants, ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui en ont moins besoin, est-ce que c'est pas une folie ?
Alors, c'est d'abord, ça va pas impacter directement l'université en tant que telle. C'est vraiment un sujet pour les restaurants universitaires, les Crous, enfin qui sont voilà. Donc bien sûr, on va les accompagner. Hein, il y a une mesure, c'est un coût budgétaire évidemment derrière, qui est un coût significatif. C'est à peu près 80 millions d'euros par an qu'on va mettre en plus pour contribuer pour rendre cette mesure possible. Ça va être une grosse charge de travail aussi en plus pour les restaurants universitaires, pour les personnels des Crous. On les accompagnera. Maintenant. Après, c'est aussi un budget de compromis, ce qu'on a fait. Comme vous le savez, c'était pas une mesure que moi je poussais beaucoup, mais c'était une mesure qui était très importante pour le Parti Socialiste. Donc c'est une discussion qu'on a eue, et effectivement, c'est une mesure qui va bénéficier globalement aux étudiants. Moi, la petite difficulté que j'avais, c'est que je me disais qu'en fait, elle va peut-être pas se focaliser exclusivement sur les étudiants qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'était peut-être une petite difficulté. Mais on va le faire. On va le faire dès le mois de mai. On va le faire efficacement. Le repas sera 1 € pour tout le monde, et on accompagnera les Crous pour que ça fonctionne.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Philippe Baptiste, donc ministre chargé de l'enseignement supérieur, et un merci tout particulier à Yacine pour son témoignage. Yacine, étudiant, qui est venu donc vous interpeller. Il est 7h52 pendant ce temps-là. La voix de gauche d'RMC, Cécile Duflot, est entrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Les délais de la protection judiciaire de la jeunesse sont trop longs. On le voit évidemment après le drame de Sanary-sur-Mer où une professeure d'art plastique a été poignardée par un élève qui était en attente de rendez-vous. Est-ce que le ministre a raison, le ministre de la Justice, de dire que c'est juste un problème aussi de délai trop long?
Bien sûr, et il faut absolument s'attaquer aux violences familiales. C'est souvent la source de beaucoup d'autres violences.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h52 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le bonus, Mathieu, juste avant d'accueillir la voix de gauche, avec une nouvelle carte postale de Jean-Jacques Goldman.
Eh oui, c'est pas une façon de parler, Apolline. Le chanteur retiré des projecteurs a littéralement envoyé une carte postale à un de ses fans, prof d'Épernay dans la Marne, qui s'appelle Mathieu et qui partage sa passion avec ses élèves. Une chanson en plein cours, une phrase citée, le prof en parle comme d'un artiste qui aide à comprendre le monde. Prof d'histoire géo, évidemment, il se sert de la chanson Né en 17 à Leidenstadt.
Si j'étais né en 17 à Leidenstadt,
Alors Thaïs, une de ses élèves, a écrit à l'artiste une lettre manuscrite pour lui parler de son prof et de l'anniversaire de Mathieu qui arrivait. Bingo, ça a touché Goldman qui a adressé une carte postale à l'enseignant. Bon anniversaire Mathieu, merci de changer tant de vie, merci aussi pour ton estime qui me touche beaucoup. Il a aussi pensé à saluer, je cite, l'adorable Thaïs, oui, adorable et audacieuse la lycéenne.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
Cours reprennent progressivement ce matin à Sanary-sur-Mer. Mardi, un élève de 4e a agressé avec son couteau sa professeure. Le collégien bénéficiait avec sa sœur d'une mesure d'assistance éducative parce qu'il y avait des suspicions de violence intrafamiliale dans la famille. Cécile, vous vouliez revenir justement sur cet organisme qui est censé protéger les mineurs, mais il était toujours d'ailleurs en attente de rendez-vous.
Exactement, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une administration du ministère de la Justice dont la mission c'est à la fois de s'occuper des jeunes délinquants, mais aussi des jeunes qui sont en danger. Et on en a besoin parce que la violence des jeunes, je pense que c'est quelque chose qui nous choque le plus et encore plus, et je pense beaucoup à elle comme je pense nous tous, quand elle vise des enseignants, des gens qui ont dédié leur vie, toute leur carrière à s'occuper de ces adolescents. Mais ce qui est sûr, c'est que si on regarde les statistiques, il y a moins de jeunes violents. Il y a moins de violence chez les jeunes, ça s'est beaucoup, beaucoup éteint, notamment par rapport au début du siècle, mais même par rapport à il y a quelques années. En revanche, ces actes de violence sont parfois encore plus violents. Et c'est pour ça que, en fait, moins il y en a et plus ils sont violents, plus ça nous choque légitimement.
Une violence, effectivement, donc comme débridée. Mais vous dénoncez des moyens en baisse.
Oui, et ça, c'est le problème. C'est que face à ça, les moyens ont régressé. Et les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment parce que, et c'est un rapport du ministère lui-même qui le dit, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est le parent pauvre ministère. Pour le seul milieu ouvert, c'est-à-dire exactement celui qui devait s'occuper du jeune dont on parle, l'inspection générale de la justice estime qu'il manque 322 postes, ce qui est considérable. Et quand on en annonce 76, on voit bien que c'est en deçà de ce qui est nécessaire. Et plus largement, et là où c'est plus grave, c'est alors que 600 postes ont été créés dans la PJJ depuis 2020, les effectifs des métiers du social, de l'insertion et de l'éducatif, ceux qui sont auprès des jeunes, ont eux baissé de 53 équivalents temps plein. Donc en fait, on englue les personnels dans l'administratif au détriment des jeunes. Et ça, les syndicats le disent, et même l'inspection de l'administration le dit.
Et pourtant, d'après vous, travailler sur la prévention, sur l'accompagnement de ces jeunes vulnérables, ce serait précisément le moyen d'enrayer la violence.
Oui, et je pense qu'il faut le dire là maintenant. Il faut dire cette phrase, quand un enfant frappe les autres, demande-toi d'abord si c'est pas lui qui est frappé. Cette phrase, moi, elle m'a beaucoup marquée, et c'est un principe de base en matière de prévention de la violence dans l'enfance, et ça a été scientifiquement étudié. Donc il y a des centaines d'études sur le sujet, il y a même des études qui compilent ces études, qui montrent une chose. Quand on est victime de violence dans l'enfance, on est davantage conduit à être violent quand on est un garçon et à être victime de violence quand on est une fille. Mais c'est pas non plus automatique parce qu'il y a plein d'autres phénomènes qui interviennent. Il y a l'entourage, l'éducation, l'accompagnement psychologique. Donc on peut agir sur ce déterminant très difficile qu'est la violence
avant
dans l'enfance.
Qu'il ne devienne violent, justement. Si on veut faire baisser le niveau de violence dans la société, pour vous, il faut s'occuper de ses enfants.
Oui, bien sûr. Il faut s'occuper des enfants pour permettre de lutter contre la violence dans la société. C'est d'ailleurs ce qui avait prévalu lors de la rédaction d'un document essentiel qu'on appelle l'ordonnance de 45, qui est signé par le général de Gaulle en personne, qui pose pour principe que l'éducation doit dominer dans la justice des mineurs, dans la réponse, mais aussi dans leur protection. Et ça, c'est une approche humaniste, évidemment, mais c'est surtout une approche très pragmatique. Parce que avant la guerre, il y avait ce qu'on appelait les colonies pénitentiaires, les bagnes d'enfants, des lieux extrêmement violents, cruels même parfois. L'idée, c'était de mettre ces enfants et ces adolescents à l'écart de la société, mais en fait, on les rendait encore plus violent. Donc on est dans une situation où on sait qu'en fait, plus on est violent avec les enfants, plus ils deviennent violents. Et on est dans un pays où tous les 5 jours, il y a un enfant qui meurt sous les coups de ses parents. Donc donner des moyens à la prévention et à la lutte contre la violence dont sont victimes les enfants, c'est une bonne chose pour les enfants, c'est une bonne chose pour la société.
Merci Cécile Duflo, la voix de gauche d'RMC. 7h59, on se retrouve dans un instant pour la météo, le journal et l'économie. C'est Emmanuel Le Chypre qui nous rejoint. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h passées de 1 minute et il y a encore de la pluie, Géraldine.
Encore, et je vous préviens, c'est pas terminé. Vigilance orange sur la Gironde, parce qu'il y a toujours les risques de crues, en particulier au moment de la pleine mer. Donc ça sera plutôt ce soir maintenant. Et puis vigilance orange sur le Morbihan pour les fortes pluies, parce qu'on a un peu la même situation qu'hier. Une perturbation qui arrive par l'Atlantique, des remontées de Méditerranée, tout ça qui va se rejoindre, donc ce qui va nous donner de la pluie quand même sur la plupart des régions pour aujourd'hui. C'est plus calme dans le nord-est, avec même un petit peu de soleil. Les températures sont en hausse. On garde vraiment la douceur. Il fera souvent 10 à 15 degrés pour cet après-midi. On ira même jusqu'à 17 pour Biarritz.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
8h passées de 1 minute. Excellente journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Question ce matin, êtes-vous satisfait de votre niveau de vie? Question à la une ce matin, puisque le PIB par habitant est en dessous de la moyenne européenne en France et 77% des Français estiment d'ailleurs qu'ils ne sont pas assez payés. On sera dans le journal à Sanary-sur-Mer. Les cours reprennent deux jours après l'agression au couteau d'une enseignante par un élève qui doit être présenté à un juge d'instruction ce matin. Et on va dresser déjà les enjeux du tournoi des Six Nations qui commence ce soir en rugby pour la France contre l'Irlande. Grosse affiche un jeudi, c'est à cause des JO.
Nous avons désormais en France un niveau de vie inférieur à la moyenne européenne.
Oui, alors là, on n'a que des paradoxes, parce que pour la troisième année consécutive, le PIB par habitant de la France, septième puissance économique mondiale, est inférieur à la moyenne de l'Union européenne. La faute à notre incapacité à changer de modèle économique. C'est la phrase qui est à la une du journal Le Parisien ce matin, avec une impression de déclassement. 77% des Français ont le sentiment que le travail ne paye pas, d'après un sondage Elab pour BFM TV. La preuve écoutée avec Victor Girard et Philippine Boulet pour RMC.
Ça ne fait aucun doute pour Asdine.
Non, ça paye pas le travail.
À 62 ans, cette femme de ménage compte sur des heures supplémentaires pour subvenir à ses besoins.
Quand on me demande, je dis jamais non, 12 euros, ça fait de l'argent qui rentre. J'en ai besoin. Quand je paye mes factures, j'ai pas assez pour vivre.
Jonathan a 48 ans. En tant que tourneur-fraiseur, il touche 4000 euros par mois.
J'ai la chance d'avoir un bon travail dans une très grosse entreprise.
Mais il estime que ces dernières années, son niveau de vie a baissé.
Je commence à regarder les prix, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Les sorties, je fais aussi attention.
Père de 3 enfants, son salaire ne lui permet pas d'être propriétaire.
On est 2 à travailler, qu'on a voulu acheter, waouh, c'était compliqué.
Hugo est un ancien boulanger, aujourd'hui à la recherche d'un emploi. Il se souvient qu'en 4 ans, son patron n'a jamais pu lui accorder d'augmentation.
Il m'avait fait voir le prix qu'il payait, les matières premières, l'électricité, l'eau, le gaz. Plus ses employés faisaient même plus de chiffre d'affaires, ils perdaient plus d'argent que ce qu'ils gagnaient.
Pour améliorer leur niveau de vie, laissons dépenses qu'il faut optimiser son budget, investir ou déménager dans une zone où la vie est moins chère.
Et alors depuis ce matin, vous l'avez entendu sur RMC, on vous parle de ces 75 universités françaises qui, pour la première fois, commencent l'année dans le rouge. Hausse des étudiants, hausse des charges aussi, et en retour, l'État qui ne compense pas, selon les présidents d'universités qui alertent ce matin. Et tiens, pour alerter sur une situation intenable en tout point, à Toulouse, les 12 enseignants d'une école du quartier de Saint-Martin-de-Touche sont en arrêt maladie depuis lundi, les 12 en même temps, arrêt à répétition d'ailleurs depuis le début de l'année scolaire pour protester contre le manque de moyens, nous dit Jean-Wilfried Forquès pour RMC.
Depuis le début de la semaine, les parents d'élèves de cette école regrettent que les cours ne soient plus assurés.
La situation ici à l'école est intenable. Il n'y a aucun apprentissage qui est réalisé là sur le temps scolaire. Les enfants sont à la garderie.
L'école reste ouverte, mais pour Cécile, une maman, cette situation est le point d'orgue d'un problème plus profond.
Depuis le mois de novembre, il y a régulièrement jusqu'à 4 enseignants absents, donc un tiers des enseignants absents sur l'école, non remplacés.
Le non-remplacement des titulaires se répète trop souvent, selon les syndicats, ce que confirme Charazade. Sa fille est élève en classe de CM2.
Elle n'a pas d'apprentissage, elle est répartie en classe de CP où elle fait ce qu'elle peut. Donc du coup, ils vont rentrer au collège comment ?
De son côté, Christian Mindivet, le directeur académique de l'éducation nationale, promet une solution en début de semaine prochaine.
C'est une situation qui est très inconfortable. Nous mettons tout en œuvre pour trouver tous les remplacements nécessaires. D'ici lundi, les élèves pourront retrouver des conditions de travail normales.
Et il explique que la Haute-Garonne est le département de France où le nombre de remplaçants disponibles est le plus faible.
Il est 8h05, les cours reprennent ce matin au collège de Sanary-sur-Mer, dans le collège où une enseignante de 60 ans, toujours entre la vie et la mort ce matin d'après sa famille, a été poignardée par un élève de 14 ans qui a expliqué aux enquêteurs avoir agi par vengeance. Pierre Bazin, envoyé spécial pour RMC du service police-justice, et ce matin que l'adolescent doit être présenté à un juge d'instruction.
Oui, le juge va certainement lui notifier sa mise en examen pour tentative d'assassinat. À l'issue, il pourrait être placé en détention provisoire dans un quartier pour mineurs, le temps de l'instruction et pendant un an maximum. Ces dernières heures, face aux enquêteurs, il a reconnu les faits. Il explique même avoir prémédité son geste, puisqu'il reprochait à la victime d'avoir signalé plusieurs incidents le concernant sur Pronote, alors qu'il estimait cela injuste. D'après ses propres déclarations, l'adolescent de 14 ans indique qu'il avait déjà envisagé de poignarder l'enseignante une semaine avant les faits et s'était finalement ravisé. Mardi, rempli de haine selon ses explications, il a pris un couteau dans la cuisine familiale avant de se rendre au collège et de passer à l'acte. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont notamment retrouvé plusieurs armes blanches dans la chambre du suspect. Il a expliqué qu'il trouvait ça stylé, selon ses propres mots.
Le français Tom Félix est de retour en France, tout juste acquitté de trafic de stupéfiants en Malaisie où il risquait jusqu'à la peine de mort. Il a atterri tôt ce matin à l'aéroport de Roissy. Encore un, tiens, qui ne passera pas par la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle de l'année prochaine. Le socialiste Jérôme Gage annonce ce matin sa candidature, mais sans participer à la primaire qui est prévue le 11 octobre prochain. Ça recommence au Rassemblement National. On est, vous savez, en pleine campagne des municipales et le RN annonce qu'il retire l'investiture de sa tête de liste dans la ville de Carpentras après les tweets racistes révélés cette semaine dans la presse. Ça rappelle l'épisode des brebis galeuses lors de la campagne des dernières législatives. Le parti avait promis d'ailleurs un examen approfondi des candidatures, Romain Houg.
Oui, on parle là de dizaines de tweets publiés par ce candidat Rassemblement National, Christian Richaud-Simony, depuis 2017 sur son propre compte. Des messages à caractère raciste, sexiste, homophobe ou encore handiphobe, visant parfois directement des personnalités publiques comme Omar Sy ou la députée LFI Danielle Obono. Le Rassemblement National désapprouve et condamne sans réserve, indique son délégué départemental dans le Vaucluse, et assure que le parti n'avait pas connaissance de ces publications. L'investiture de ce candidat lui est immédiatement retirée. Il est également suspendu du RN dans l'attente d'être convoqué devant ses instances disciplinaires, précise le communiqué. Christian Richaud-Simony a désactivé son compte mercredi matin avant de le réactiver, mais avec 300 postes en moins. Une nouvelle tête de liste sera désignée très prochainement à Carpentras, indique le parti.
Aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina, vous savez qu'RMC est la radio officielle de ces Jeux d'hiver. Eh bien, sachez que la neige perturbe les premières épreuves. C'est un comble. L'entraînement de descente est annulé aujourd'hui à cause des chutes de neige. Les Jeux sont lancés avant même la cérémonie d'ouverture qui est prévue demain à Milan. Et c'est d'ailleurs en raison des Jeux Olympiques. Et bien que le tournoi des Six Nations en rugby commence exceptionnellement ce soir, un jeudi. On n'a pas l'habitude en rugby, la France contre l'Irlande, ça se passe au Stade de France, Wilfried Templier, chef de la cellule rugby en direct ce matin pour RMC. C'est vous qui allez commenter le match des Bleus, donc qui sont favoris pour ce tournoi mais qui veulent pas s'enflammer.
Eh oui, pas question encore de parler de grand chelem, c'est l'arrière Thomas Ramos qui le disait cette semaine. Un tournoi des Six Nations, ça se construit et on attendra avant de rêver de cette finale, ce France-Angleterre à la dernière journée, le samedi 14 mars. Mais vous savez compter, c'est dans un mois et demi. Avant, il faut valider les changements opérés par Fabien Galthié dans son groupe, puisqu'il n'a pas hésité à écarter des cadres comme Aldrit, Ficou ou Penaud, des joueurs expérimentés. Place à des plus jeunes, mais aussi à des hommes en forme, d'où la titularisation à l'ouverture du Bordelais Mathieu Jalibert, qui profite de la blessure de Romain Ntamack pour former la charnière avec Antoine Dupont. De retour de blessure, Dupont-Jalibert, un duo qui fait saliver les fans d'un rugby d'attaque. Alors ce soir, à un an et demi de la Coupe du Monde en Australie, le sélectionneur Fabien Galthié l'a annoncé, ils veulent retrouver la flamme qui les a souvent portés. Alors messieurs les Français, comme disait l'autre ce soir malgré tout, allumez le feu.
21h10, ce match avec vous, Wilfried Templier, France-Irlande pour l'ouverture du tournoi des Six Nations exceptionnellement un jeudi.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h10, place à l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Emmanuel, le Chypre ce matin, le délai de paiement.
Ouais, absolument, le non-respect des délais de paiement qui devient le cauchemar numéro un des patrons français. Alors, on sait que le montant des retards de paiement que subissent les entreprises, on est à 80 à 100 milliards d'euros sur les 800 milliards qu'elles se facturent chaque année entre elles. Mais ce que ne dit pas ce chiffre, c'est que ça touche quasiment toutes les sociétés. 9 entreprises sur 10 déclarent perdre de l'argent chaque mois du fait des paiements tardifs et un tiers se disent en difficulté à cause de ces retards de paiement selon l'étude que vient de publier Go Cardless, car cet argent qui ne rentre pas dans les caisses, c'est autant d'argent qui manque pour développer l'activité. Un quart des entreprises ont dû, à cause de ce manque de trésorerie, augmenter leurs prix. Autant ont reporté le lancement de nouveaux produits, ou bien ont gelé aussi des recrutements.
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on a quand même l'impression que ça reste un sujet tabou.
Alors moi, dans cette enquête, c'est ça qui m'a le plus surpris. Tabou entre les entreprises d'abord. Au cours des 12 derniers mois, plus de la moitié des entreprises ont évité d'aborder la question avec leurs clients. Pire, le chiffre le plus dingue, 8 entreprises sur 10 sont prêtes à renoncer jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires pour ne pas entrer en conflit avec leurs mauvais payeurs. Tabou aussi ce sujet à cause de l'État lui-même, premier commanditaire mais très mauvais payeur, surtout les hôpitaux et les collectivités locales, et État qui ne fait pas non plus respecter la loi LME qui, rappelons-le, est censé garantir des délais de paiement raisonnables.
Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être payés à temps?
Alors il y a les voies traditionnelles, hein, la voie amiable avec les aides de relance, ça fonctionne moyen, imposer des pénalités, l'étape supplémentaire c'est la mise en demeure, mais c'est épuisant. Après il y a les procédures judiciaires, l'injonction de payer, etc. Contre l'État c'est encore plus compliqué. Alors après il y a des solutions, mais qui sont payantes et qui peuvent coûter cher. Pour acheter sa tranquillité de chef d'entreprise, c'est solliciter des sociétés d'affacturage. Donc la boîte vous rachète la facture est payée, mais ça a des frais. Évidemment, ça peut aller jusqu'à 5% du montant de la facture. Ouais. Donc quand votre marge, c'est 3 ou 4%, bah voilà, ça sert à rien. Et puis il y a aussi l'assurance crédit. Là, c'est apparemment moins cher, mais bon, c'est compliqué parce que ça dépend du secteur, ça dépend de l'entreprise, etc. Donc ça aussi, ça coûte cher. Donc voilà, c'est un vrai fléau, un vrai poison.
Mais c'est bien aussi de réveiller
pour les entreprises françaises.
Tout le monde là-dessus ce matin. Merci beaucoup, Emmanuel. Il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui vient nous rejoindre comme chaque matin. 8h30, notez que l'invité du face-à-face, ce sera le plus haut magistrat de France, le procureur général près la Cour de cassation, comme on dit, Rémi Yates. On reviendra évidemment aussi sur les réquisitions du parquet à l'encontre de Marine Le Pen et les recours auxquels elle pourra éventuellement avoir accès. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup et ses imitations. C'est comme chaque jour face à Canteloup à 8h50 sur RMC. 8h13, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Mais quel plaisir, c'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud de Manche.
Que je rentre sur mon petit saxophone.
Ah, salut Arnaud.
On va parler musique d'ailleurs, tiens, matin. Ouais, ambiance RMC Gold, on va parler des Grammy Awards avant de parler d'actu, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais le Dalai Lama a obtenu son premier Grammy Award pour des livres audio, c'est véridique. Il a eu un Grammy, quoi. Trump doit être jaloux. Non seulement il a eu le prix Nobel de la paix, Dalai Lama, mais en plus, il soulève un Grammy, quoi. Alors, soulever un Grammy, hein, c'est une récompense. Rien à voir avec soulever une Granny, qui est une catégorie YouPorn que personne n'aime.
Si, moi, j'aime bien. Mais, Brigitte...
Tout ça pour ça. Alors, vous savez que le Dalai Lama est considéré par les bouddhistes tibétains comme la 14e réincarnation du maître que se sont choisis des moines en 1391. Mmh. Et oui, heureusement qu'on n'a pas ce système en France. À la fin du deuxième quinquennat de Macron, on devrait se taper la réincarnation d'Emmanuel Macron en version gamin. Allez, en parlant d'enfants qu'on doit se taper, la grosse actu, ce sont les dossiers Epstein. Et hier... la transition est un peu acrobatique, mais au moins elle est claire. Hier, Jack Lang était sur votre plateau.
Oui.
Il a justifié sa relation avec Jeffrey Epstein. On n'avait pas vu une aussi mauvaise défense depuis le dernier match de l'OM. Cataclysmique. Petit récap.
Madame de Malherbe, j'ai connu Jeffrey Epstein, pas comme pédocriminel, mais d'abord comme un esthète, un amateur d'art, charmant, érudit, incollable sur David Hamilton et Roman Polanski, très généreux, le cœur sur la main sur la teub sur ton nez.
Non.
Très famille, toutes ses nièces et ses neveux qui batifolaient, et cette générosité,
oui, cette générosité.
Ça n'était jamais le dernier pour leur acheter des strings, du tanga, du monoï.
Alors vous avez essayé de le contrer un peu, mais vous ne saviez pas qu'il était déjà condamné pour pédocriminalité depuis des années ?
Madame, si je devais cesser de fréquenter tous les gens condamnés pour pédocriminalité dans mon entourage, je finirais tout seul. C'est Woody Allen qui me l'a présenté.
Oui.
Et comment pouvais-je soupçonner que Woody Allen était le genre d'homme capable de tromper sa propre fille?
Et vous l'avez fréquenté longtemps, Jeffrey Epstein?
Non, je ne pouvais pas rester trop longtemps sur cette île des Caraïbes, car à 42 degrés, je fonds. Tout le plastique fait des petites bulles qui sont avalées par des tortues qui meurent étouffées.
Oh,
horrible. Bref.
Bref, ce scandale éclabousse le monde. Il y a des vidéos qui commencent à sortir. Nous, à RMC, on a réussi à obtenir un audio exclusif, une conversation dans le poste de pilotage du jet d'Epstein, le Lolita Express. un document édifiant.
Mais donc, Joy, tu avais déjà vu un cockpit ?
Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion.
Et tu as déjà vu un monsieur tout nu ?
Atroce, les grands classiques. Moi, j'ai peur de la suite avec Jack Lang, qui va revenir, qui va vous expliquer Madame de Malherbe. Je n'ai pas connu Michel Fourniret en tant que serial killer. Ce qui m'intéressait, c'était l'ami des forêts. S'il y a un procès pour Jack Lang, ça va être chouette en tout cas.
Merci beaucoup Arnaud. Jean-Luc Mélenchon revendique désormais d'être maghrébin.
Oui, c'est vrai que ça se voyait pas trop, c'était mieux de le préciser. Nous, on se faisait avoir par le fait qu'il s'appelait Mélenchon et qu'il était blanc. Eh ben non, c'est un fier berbère des montagnes. Il a déclaré en meeting à Aubervilliers.
Je suis né au Maghreb. Et comme une fois j'ai dit, je suis un maghrébin français. Quelle horreur ! Comment ? On peut dire qu'on est breton, on peut dire... Mais je viens du Maghreb.
Il est maghrébin, voilà. Il est maghrébin, et quand il parle aux Français, ses comptes français lui disent qu'il est même pas maghrébin. Ça se sent qu'il est en campagne, hein, quand même. Sur CNews, par contre, ils n'ont pas du tout été surpris. Tout à fait. Cet homme qui a vécu d'argent public toute sa vie sans jamais travailler ne pouvait être que maghrébin. Moi, j'aurais dit que blanc et né au Maghreb, c'était fils de colon, pas maghrébin, quoi. Ségolène Royal, elle est née à Dakar. Demain, elle va pas nous expliquer qu'elle est noire. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing à Aubervilliers, fils de colon, ça marchait pas. Donc maintenant, il est maghrébin. C'est-à-dire qu'il a les pires difficultés à trouver un appartement, à rentrer en boîte. Je parle même pas des contrôles aux faciès. Les flics l'arrêtent tout le temps. Bonsoir, monsieur. Vos papiers? Ah ouais, Jean-Luc. Encore un arabe, hein, Mélenchon. J'ai hâte de le voir en campagne dans le 13e. Il va leur expliquer. Je suis chinois. Attendez, j'aime les nems, j'adore le communisme, je supporte pas la démocratie, je suis chinois. Et quand il va aller draguer des féministes.
Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme.
C'est pas un homme, c'était lui en fait. Et oui, c'était lui en fait. Là, il va aller voir les femmes en disant « Je suis une femme, j'ai un caractère de merde, je supporte pas la contradiction, je veux toujours avoir le dernier mot, j'ai les nichons qui pendent, je suis une femme. » Mélenchon, il me fait penser aux mecs de 45 ans qui ont un t-shirt retour vers le futur et qui draguent des filles de 21 ans aux soirées en disant « Hein, quelque part, on a le même âge ?» Hein, tu me donnes quel âge ? Pendant qu'elles, elles couvrent leur verre avec la main. Elles font attention. Donc attention Jean-Luc, ça se voit. Ça se voit. À demain.
À demain. Arnaud Demange, tous les jours pour notre plus grand plaisir. Il est 8h21.
Détendez-vous sur RMC avec Sup de Com, une école du réseau compétences et développement.
Et dans un instant, ça se passe sur RMC et BFM TV. Mon invité dans le face-à-face, c'est le plus haut magistrat de France. Le top du top, le patron de la Cour de cassation, Rémy Heitz. On va revenir évidemment sur les réquisitions dans le procès à l'encontre de Marine Le Pen. Quels sont d'ailleurs les recours auxquels elle pourrait avoir recours? Et c'est donc une des questions que je pose à Rémy Heitz dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
RMC et BFM TV, il est 8h29. Bonjour Rémy Heitz. Vous êtes le procureur général près la Cour de cassation. Vous êtes le plus haut magistrat en France. Et il y a beaucoup de questions que je voudrais pouvoir vous poser ce matin. Des questions sur l'indépendance de la justice et des questions aussi tout simplement sur le fait de pouvoir juger. Est-ce qu'on peut encore juger et bien juger en France? Mais d'abord, bien sûr, ces questions sur ces procès politiques et celui de Marine Le Pen. Le procès des assistants parlementaires du FN, les réquisitions ont donc été prononcées mardi soir. Si elles sont suivies, Marine Le Pen pourrait être empêchée de se présenter. D'abord, est-ce que la justice peut vraiment ne pas être politique? Et puis ensuite, est-ce qu'il reste un recours? Et la Cour de cassation que vous représentez ce matin pourrait en être un. D'abord, est-ce que la justice peut ne pas être politique?
Bonjour. Vous avez employé l'expression tout à l'heure « procès politique ». Ce n'est pas un procès politique, c'est un procès qui a des conséquences sur la vie politique. Mais vraiment une affaire qui est jugée par des magistrats qui appliquent la loi, qui disent le droit et qui jugent des faits qui ont été commis. Alors, ce n'est pas pour autant que nous n'avons pas conscience collectivement des enjeux politiques. C'est la raison pour laquelle la justice, l'institution, s'est mise vraiment en mesure, eh bien, de traiter les voies de recours avant l'élection présidentielle. Mais respectons le calendrier. Il est tenu jusqu'à maintenant une décision de la Cour d'appel avant l'été, au mois de juin. Et s'il y a un pourvoi en cassation qui aura un effet suspensif, eh bien, s'il y a un pourvoi en cassation, nous l'avons dit, le Premier Président, moi-même, de la Cour de cassation, l'affaire sera examinée avant l'élection présidentielle, sûrement avant la fin de l'année ou en début d'année prochaine, donc quelques semaines avant l'élection présidentielle.
Quand vous dites avant la fin de l'année, et bien sûr, vous avez dit, il ne s'agit pas de procès politique. Bien sûr, je n'ai pas voulu dire qu'il s'agissait de procès politique, ou alors c'est une question en soi, mais il s'agit de procès qui ont pour objet des questions politiques, tenant aux politiques, et qui ont des conséquences, comme vous le dites, politiques. Quand vous dites ce calendrier, il a été tenu, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une forme de responsabilité prise par les différents magistrats, la cour d'appel, vous-même ensuite, si toutefois Marine Le Pen décidait de se pourvoir en cassation, le calendrier politique a quand même un impact sur le calendrier judiciaire.
C'est une question en effet de responsabilité. Ce procès en effet a des conséquences, l'issue de ce procès a des conséquences au plan politique, et l'institution, encore une fois, a voulu tenir un calendrier pour permettre l'examen des voies de recours, puisque dans ce pays, il y a des voies de recours, dans les délais. Et j'insiste bien sur le fait que le pourvoi en cassation, s'il intervient, aura une finalité très différente de l'appel, puisqu'il ne s'agira pas de rejuger l'affaire complètement, il s'agira d'examiner les moyens de droit, d'examiner cette affaire au regard de l'application de la loi, voir si la loi, la procédure ont bien été respectées.
Ça, c'est évidemment le rôle de votre juridiction, voilà, et on le reprécise pour que chacun le comprenne, voilà. Quelles que soient les affaires que vous jugez, exactement, que ce soit celle-ci ou d'autres, vous jugez non le fond, mais effectivement la procédure, pour vous assurer que la procédure a été correctement suivie, que le droit a été appliqué. Rémy Hetz, vous avez dit on jugera dans ces cas-là, si toutefois elle se pourvoyait en cassation, dans un délai très raisonnable. Vous parlez de la fin de l'année ou du début de l'année suivante. Je voudrais qu'on soit très précis. L'élection, si elle a lieu selon le calendrier qui est normalement celui des élections présidentielles, serait en mai 2027. Mmh. Quand vous dites fin de l'année, ça veut dire qu'idéalement, si c'est en décembre 2026, c'est jouable pour vous ?
Alors, c'est court. Ça, après, si vous voulez, c'est
le calendrier
politique. En fonction aussi de l'évolution de la procédure, des moyens, de l'attitude aussi des partis, nous pouvons respecter un délai de 6 à 8 mois. Et donc, ça nous mène, en effet, à la fin de l'année ou au début de l'année.
Vous n'iriez pas au-delà de janvier ?
C'est-à-dire que
tout cela
ne dépend pas non plus que de nous. C'est-à-dire que cela dépend aussi de la façon dont les partis vont agir, les moyens qu'elles vont soulever, les moyens de procédure notamment. Mais voilà, nous sommes sur un délai de 6 à 8 mois. Donc, en amont de l'élection présidentielle, plusieurs semaines avant l'élection présidentielle.
Après, plusieurs semaines, mais c'est vrai que Marine Le Pen, voilà, elle dit déjà que ça n'est pas suffisant, qu'elle ne peut pas laisser cette épée de Damoclès, en quelque sorte, au-dessus de la tête de sa campagne. Si vous confirmiez une peine d'inéligibilité en cassation, que ce soit décembre ou que ce soit janvier, il est trop tard pour changer.
Le calendrier, il est celui-ci. Cette affaire, c'est une affaire qui est ancienne. Je l'ai d'ailleurs moi-même connu comme procureur de la République de Paris. C'est une affaire
à l'époque
qui,
où vous étiez, voilà, procureur de la République de Paris.
C'est une affaire dans laquelle, de nombreux recours ont été intentés. C'est donc une affaire qui a duré, mais aussi du fait des partis. C'est une affaire qui a duré. Elle arrive maintenant. Encore une fois, nous, notre responsabilité, c'est qu'une décision définitive, intervienne avant l'élection présidentielle. Je peux pas aller au-delà parce que après, on se perd dans les hypothèses, inéligibilité, exécution provisoire. Il faut laisser les juges faire leur travail. Et laisser les juges faire leur travail en toute sérénité. C'est une responsabilité importante. Il faut je le dis parce que pour ces magistrats qui ont en charge ces grands dossiers, c'est difficile. Il faut du courage. Donc, laissons-les faire leur travail sans non plus tirer des plans sur la comète et sans, exploiter toutes ces hypothèses à l'infini. Un peu de patience, attendons la décision, on y verra beaucoup plus clair juste avant l'été.
Quand vous dites cela, il y a évidemment la question du procès des assistants parlementaires du FN, mais il y a désormais un grand nombre, en tout cas en ce moment, dans le calendrier judiciaire, d'affaires politiques, qui ont effectivement des conséquences politiques. Il y a évidemment les procès autour de Nicolas Sarkozy. Il y a eu, vous l'avez vu, l'expression tyrannie des juges qui avait été utilisée lors de la premier procès sur les assistants parlementaires. Il y a Sophia Chikirou qui est elle-même candidate à la mairie de Paris, la candidate LFI, qui sera jugé en mai. Donc il y a une concomitance juste après juste après l'élection municipale pour escroquerie. Elle accuse la justice de vouloir nuire à son image. Sous-entendu, c'est vraiment personnellement contre elle, de gêner, de vouloir gêner sa campagne. Qu'est-ce que vous répondez à
le
ça?
Le temps judiciaire, ce n'est pas le temps politique et ce n'est pas le temps médiatique. Voilà. Alors, il y a parfois, en effet...
Il se trouve que là, ça se...
Dans certains cas, ça peut s'entrechoquer. Mais ce n'est pas le fait de la justice. La justice n'est pas dans cette logique de prise en compte du calendrier politique.
Vous elle êtes choqué, je sens, elle
ne,
de cette...
Non, elle ne veut nuire à personne, la justice. Dans certains cas, elle accepte des renvois.
Vous souhaitez nuire, c'est le mot qui avait été utilisé, nuire.
Oui, je suis choqué parce que ce sont vraiment des considérations qui sont totalement absentes chez les procureurs qui audiencent en quelque sorte, qui fixent le calendrier de ces affaires. Vraiment, moi je le dis, il n'y a pas de volonté d'instrumentalisation de la justice des affaires politico-financières. Nous jugeons les affaires, la justice a ses propres calendriers qui sont, encore une fois, je le répète, souvent induits par les parties elles-mêmes qui exercent souvent des recours et qui parfois retardent le cours qui pourrait être plus rapide de la justice. Donc n'inversons pas les choses. Il y a parfois peut-être des calendriers qui s'entrechoquent, mais encore une fois, c'est sans jamais aucune volonté de la justice d'interférer sur le calendrier politique, sur l'exercice démocratique.
Rémi Hetz, j'ai reçu récemment sur BFM TV le procureur général d'Aix-en-Provence qui regardait le calendrier judiciaire et qui disait « Nous ne pourrons pas tenir les délais qui nous sont impartis pour juger des criminels potentiels, pour rejuger, puisqu'il s'agit effectivement du procureur général d'Aix-en-Provence. » Il disait qu'il y aurait au minimum 19 accusés criminels qui vont devoir être remis en liberté courant 2026 parce que les délais ne pourront pas être tenus. C'est une situation très grave.
C'est une situation très grave. Je l'ai dit l'année dernière, nous allons dans le mur puisque nous ne sommes plus l'institution judiciaire actuellement en mesure de juger dans des délais raisonnables les affaires criminelles. Là où nous avions habituellement un volume à peu près de 2000 affaires à juger, aujourd'hui nous avons presque 5000 affaires. Et cela veut dire que nous ne pouvons plus respecter des délais qui sont des délais très stricts. Un an devant les cours criminelles départementales après l'arrêt de mise en accusation, 2 ans au maximum devant les cours d'assises, nous n'arrivons plus à tenir dans certaines cours d'appel ces délais. Et donc il y a des risques de remise en liberté, d'où la nécessité de réagir et d'où la nécessité de prendre des mesures fortes. Et à ce titre, je soutiens pleinement le projet présenté par le garde des Sceaux,
Gérald Darmanin,
de mise en œuvre d'un plaidé coupable criminel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est une procédure que nous connaissons déjà en matière correctionnelle. C'est une procédure qui repose sur un accord négocié entre le parquet, le procureur et l'accusé, donc pour déterminer une peine lorsque les faits sont reconnus. Puisque lorsque les faits sont reconnus, eh bien, on peut sûrement aller plus vite
et ça gagnerait du temps.
Et centrer les débats sur la peine, sur la personnalité, avec bien sûr, en associant bien sûr la victime. Ça, c'est extrêmement important. Et vous savez, cette procédure de plaidé coupable à la française, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle, elle a fait l'objet de très grandes critiques lorsqu'elle a été mise en œuvre par la loi Perben il y a 20 ans. Et aujourd'hui, elle est totalement intégrée dans notre système, puisque un quart des poursuites devant le tribunal correctionnel, 25% des poursuites, plus de 100 000 affaires sont traitées comme cela. Et cette justice négociée, elle est une justice de qualité. J'insiste, ce n'est pas une justice au rabais.
C'est pas une justice bâclée.
Non, ce n'est pas une justice bâclée. Et je vais même vous dire, cette adhésion, en quelque sorte, du prévenu ou de l'accusé à la peine, souvent, elle est signe après d'une meilleure acceptation et donc d'une meilleure réinsertion parce que la personne, eh bien, adhère, en quelque sorte, à la sanction.
C'est
quelque chose d'intelligent. Ce n'est pas une solution, je le dis quand même, je vous le dis clairement, ce n'est pas la solution miracle qui va nous permettre de régler toutes les situations puisque les faits reconnus, c'est environ à peu près 1000 dossiers.
Sur les
5000. Donc ce n'est pas forcément la solution, une solution miracle, mais c'est un outil qui nous permettra d'avancer sur un sujet extrêmement compliqué. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est très alarmant.
Je voudrais comprendre quelque chose, parce que vous dites...
Je le dis avec mes collègues procureurs généraux.
Vous êtes effectivement nombreux à tirer le signal d'alarme en disant, voilà, la situation, elle est extrêmement grave, vous venez de le dire. On a des criminels qui sont en attente d'être rejugés, qui vont donc mécaniquement être libérés. Je parlais des 16 d'Aix-en-Provence, mais j'imagine que quand on regarde, est-ce qu'on a une idée, c'est quoi? C'est une centaine sur l'ensemble du territoire qui vont devoir être libérés dans l'année?
Nous n'avons pas ce chiffre. Nous avons le signal d'alarme qui est vraiment été tiré par le procureur général d'Aix-en-Provence, mais ce risque-là, il existe. Alors, c'est le risque de remise en liberté, mais derrière le risque de remise en liberté, c'est le risque de récidive, de réitération des faits par des criminels qui peuvent être dangereux. Donc, il faut absolument que nous mobilisions tous les moyens possibles pour vraiment pouvoir juger les affaires.
Je voudrais que les gens comprennent une autre chose.
Dans
c'est
de
qu'au fond, là,
conditions.
On parle de ceux qui sont jugés... incarcérés, c'est-à-dire
oui,
on parle
exactement.
De ceux et c'est vraiment important. On touche à un point qui est comme le haut de la pyramide dont découlent ensuite toutes les affaires au fond et toute la justice de notre pays. Il y a ceux qui sont de manière préventive maintenus en prison. Ceux-là ont effectivement une sorte de droit à être jugés dans des délais raisonnables. C'est ces délais que vous n'arrivez pas aujourd'hui à tenir et qui font que vous vous retrouvez dans certaines cours de France à être obligé de les libérer parce que vous ne pouvez pas officiellement les maintenir en prison ad vitam. Le problème, c'est que si on n'arrive déjà pas à juger ceux-là, qui sont donc en quelque sorte dans une urgence du temps, derrière... Et je voudrais qu'on redescende la pyramide ensemble. Il y a ceux qui doivent aussi être jugés, parce qu'ils ont aussi commis des faits, mais qui, n'étant pas jugés forcément dans un présentant un danger immédiat, ne sont pas déjà derrière les barreaux. Ceux-là, au fond, les délais vont courir, de plus en plus, et ceux-là vont potentiellement n'être soit pas jugés, soit jugés très tard. Est-ce qu'on juge encore tout le monde en France?
Notre priorité, bien sûr, c'est de juger les détenus dans des délais raisonnable. Il faut dire d'ailleurs que la justice criminelle en France est une justice de très grande qualité. Regardez les procès comme le procès Mazan, le procès de l'anesthésiste Péchier. On se donne le temps de bien juger les affaires. Mais tout cela a un coût. Et qu'est-ce qui nous a mis dans cette situation? Parce que les auditeurs vont se poser la question. Pourquoi on en est arrivé là? Alors, il y a eu l'effet Covid, où on n'a pas pu juger des affaires pendant un certain temps. Mais il y a aussi la volonté de mieux juger les crimes avec la mise en place de la Cour criminelle.
Mieux juger, mais si on se retrouve à ne pas pouvoir juger.
Voilà, on a mis en place la Cour criminelle départementale. On traite aujourd'hui beaucoup mieux les affaires à caractère sexuel. La parole s'est libérée. Il y a plus aussi de victimes qui déposent plainte. Donc, le gros de ces affaires, ce sont des affaires pour 85% devant les cours criminelles départementales, des affaires de viol, des affaires donc à caractère sexuel. Alors, pour répondre à votre question sur les libres.
J'ai l'impression que c'est comme à l'hôpital ou aux urgences, on se retrouve à devoir en quelque sorte trier. Vous retrouvez dans cette situation-là aujourd'hui.
On se retrouve dans cette situation, et c'est vrai que vous mettez le doigt sur la difficulté donc de ceux qui sont libres, qui ne sont pas détenus, et pour cela, les perspectives de jugement sont très éloignées, et cela confine même parfois au déni de justice, parce que on ne sait pas quand.
On a ça aujourd'hui en France.
Oui, quand ces accusés pourront être jugés, d'où la nécessité d'avancer. Et je peux vous assurer que. Tous mes collègues font énormément d'efforts. On multiplie les sessions d'assises. On investit énormément de moyens au service de la justice pénale. Mais avec cette réforme sur le plaidé coupable criminel,
sur
cette procédure de jugement pour crime reconnu, je pense que l'on aura un outil supplémentaire qui nous permettra d'avancer. C'est quelque chose qui est vraiment demandé et attendu par les procureurs généraux.
Rémi, j'ai encore deux questions que je voudrais vous poser. Une sur l'imprescriptibilité d'abord. Il y a aujourd'hui des délais oui. d'imprescriptibilité pour les crimes, notamment les crimes de sang. Et puis il y a eu cette affaire récemment, l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti, qui avait été tué en 1986. En 2022, le meurtrier a avoué. Sauf que les faits sont prescrits. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens que l'on a d'ADN, de preuves, y compris des années après, parce que les progrès techniques ont évolué, est-ce que ça a encore du sens d'avoir des délais de prescription qui font que cet homme ne va donc pas être condamné, que la famille de Marie-Thérèse Bonfanti se retrouve avec quelqu'un qui a avoué mais qui ne sera pas condamné?
Voilà. Alors aujourd'hui, seuls sont imprescriptibles les crimes contre l'humanité. Les crimes, autrement, se prescrivent par 20 ans avec avec une possibilité de prolongation jusqu'à 30 ans prévue par la loi. La question de l'imprescriptibilité des crimes de sang, là je parle surtout des crimes de sang, à mon avis, oui, se pose. Parce que ce que l'on voit déjà, c'est que rien ne nous empêcherait, rien n'empêcherait le législateur d'aller vers cette imprescriptibilité des crimes de sang. Et d'ailleurs, dans d'autres
vous
pays, d'Europe, comme par exemple aux Pays-Bas, comme dans certains cas en Allemagne, les crimes de sang sont imprescriptibles. Donc c'est une piste sur laquelle il faut aujourd'hui vraiment travailler, parce que ce qui a beaucoup changé, et ce qui expliquait la prescription, c'est que 20 ans après, à l'époque c'était 10 ans, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas investiguer. Aujourd'hui, avec notamment les recherches ADN, on peut investiguer, on peut mettre au jour des responsabilités.
Ce qu'on appelle les cold cases, par exemple.
Voilà, dans les cold cases. Et on se donne les moyens de le faire, puisque nous avons maintenant un pôle spécialisé à Nanterre qui fait un travail absolument magnifique, remarquable, et qui, cela permet d'élucider des crimes anciens. Donc, je le dis, la question de l'imprescriptibilité des crimes de sang se pose, oui, aujourd'hui.
L'indépendance du parquet,
vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur et je vous remercie de l'aborder.
Je sais, je vous suis, je vous regarde, je vous écoute.
Oui, moi c'est une réforme qu'inlassablement j'appelle de mes voeux. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'avoir des procureurs qui présentent toutes les garanties en termes d'impartialité et dont les conditions de nomination ne souffrent d'aucun doute. Or aujourd'hui, vous savez, il y a les magistrats du siège et du parquet. Eh bien, les garanties de nomination pour les magistrats du siège, les garanties prévues par la Constitution, sont beaucoup plus importantes que pour les magistrats du parquet. En deux mots, parce que c'est un sujet compliqué, mais les magistrats du siège, ils sont nommés après un avis qui est obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe collégial. Et moi, je voudrais que l'avis que rend ce conseil, qui est un conseil composé de personnalités extérieures, si c'est pas un conseil corporatiste de magistrats, je voudrais que cet avis, eh bien, soit obligatoire aussi, qu'il soit suivi obligatoirement. Parce que c'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est de renforcer l'état de droit, puisque les procureurs ont de plus en plus de prérogatives, de pouvoirs dans notre pays. Nous le voyons, notamment lorsqu'on parle du plaidé coupable, avec des procureurs qui peuvent un jour peut-être négocier des peines criminelles, qui aujourd'hui sont les gardiens des libertés
individuelles. Il faut qu'on s'arrête, mais j'ai bien compris que c'était votre combat. Procureur général, près la Cour de cassation. Merci à vous. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, le procureur Rémy Heitz était mon invité ce matin. Rebonjour.
Bonjour.
Et Marine Le Pen voulait réagir à cette interview, évidemment.
Oui, bonjour. Non, alors écoutez, s'il vous plaît, stop. Oui. Si vous commencez à faire les malins, RMC, moi je vous le dis tout de suite, de Malherbe, je m'en vais. Ah. Ok, je ne suis pas venu ici pour qu'on se fiche de moi. Mm. Pardon, excusez-moi, monsieur le procureur. Pardonnez-moi ce mouvement d'humeur, votre excellence. Bravo en tout cas pour votre travail sérieux, rigoureux. J'ai toujours eu pour la justice, la plus grande admiration et le plus profond respect, votre majesté. Non mais c'est vrai qu'on est parti du mauvais pied. C'est vrai que moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais traité les juges de politique, de partisans. Et eux, on peut soupoler, m'ont condamné à être inéligible. Voilà. Allez, vous savez quoi ? On oublie tout. On pense, c'est pas ce qu'on a dit à l'époque. Voilà. On se dit, si on se revoit, mon Rémi, on repart sur le bon page. Voilà.
Merci, voilà. Madame Le Pen. Nicolas Sarkozy voulait aussi réagir.
Bonjour, Madame Malherbe. Je voulais juste savoir si M. Heitz, il allait bien, pas trop fatigué. Non, parce que c'est vrai qu'avec tous les procès qui me font les juges alors que je suis innocent, tout le monde le sait, et bien du coup, je suis à chaque fois obligé de me pourvoyer en cassation. Et tous ces pourvoyages, ben, ça fait qu'augmenter la charge de travail de ce pauvre monsieur Heitz.
Voilà.
Alors, comme je ne voudrais pas que Rémy il risque un burn-out, je voulais voir avec lui si en tant que procureur près de l'école de la cassation, s'il ne pourrait pas directement, comment dire, cassationner tous mes procès d'un coup.
Ah voilà, un paquet.
Et je ne dis pas ça pour éviter de retourner à la santé, c'est uniquement parce que je m'inquiète pour la sienne de santé.
Voilà, merci monsieur Sarkozy. Monsieur le procureur Rémy Heitz, une réaction ?
Écoutez, Madame de Malherbe, s'agissant de procédures en cours, le devoir de réserve, vous le comprendrez, m'oblige et je ne pourrai pas faire ici, vous le comprendrez très bien, de commentaires.
Allez, Monsieur Hetz, Laure Bécquiot, la procureure de Paris, elle, elle n'hésite pas. Tiens, d'ailleurs, elle est avec nous. Allez, on vous écoute, Madame Bécquiot.
Écoutez, je ne suis pas contente. C'est du plagiat. Hein? Non, parce que, écoutez, quand j'écoutais votre interview attentivement, venir 20 minutes dans votre émission pour dire qu'on ne peut pas répondre sur les affaires en cours qui intéressent pourtant tout le monde, c'est mon domaine, c'est du plagiat. Ne pas répondre aux questions, c'est moi qui fais les conférences de presse pour ça. Donc c'est ma marque de fabrique, c'est mes droits d'auteur, Rémi. Hein, ça ne fait pas trop rire, Rémi.
Non,
à mon avis, c'est sa copine. Vous pouvez partir quand vous voulez. Donc j'ai engagé à l'encontre de Rémi Hicks, oui, mais voilà, une procédure pour vol et usurpation d'identité. Voilà, dans ta gueule, Rémi.
Je
me suis surpris moi-même.
Oh là là,
vous êtes outrage à magistrat. Je m'accuse d'outrage à magistrat.
Je profite de votre présence. Où en êtes-vous s'agissant des bijoux volés au Louvre?
Alors, les bijoux, je suis très à l'aise pour répondre sur les bijoux. Écoutez, nous ne savons pas où sont ces bijoux, mais l'enquête avance, puisque nous savons aujourd'hui avec certitude où ils ne sont pas.
Ah oui, voilà. C'est déjà pas mal.
C'est-à-dire à peu près partout où on a regardé. Voilà.
D'accord.
Déjà, ils ne sont plus au Louvre. On est à peu près quasiment sûr à 100%. Mais la déception ce matin, c'est que les bijoux ne sont pas non plus dans le dossier Epstein.
Ah oui.
Alors qu'on aurait pu, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on trouve dedans aujourd'hui, on aurait su soupçonner.
Merci, Madame Bécquiot. L'actualité, c'est aussi une loi pour venir augmenter le prix des transports publics. Jean Castex, le PDG de la SNCF est avec nous, bonjour.
On l'a échappé belle. Augmenter le prix des transports, ça on sait faire. Non, parce que si on nous avait demandé d'augmenter autre chose, c'était beaucoup plus compliqué pour nous. Hein, si on nous avait demandé par une loi d'augmenter la ponctualité à la SNCF, d'augmenter la propreté, la sécurité, la qualité du manger.
Mais
là, on aurait été dans une impasse. Mais là, augmenter le prix des tickets, ça, on sait faire.
Merci. Jean Castex pour cette intervention vraiment constructive. C'est ce soir que démarre le tournoi des Six Nations. Antoine Dupont, bonjour. Vous êtes prêt à faire votre tour en bleu pour affronter l'Irlande, l'équipe contre laquelle vous êtes gravement blessé au genou justement?
Oui, bonjour Madame de Malherbe.
Oui.
Même si je reprends l'équipe de France face à l'Irlande, contre qui je m'étais blessé, je suis serein pour mon genou, il n'y a pas de superstition à avoir.
Pourtant, vous portez quand même encore un gros bandage, votre genou il semble encore gonflé, non?
Non, ça c'est rien, c'est juste un bandage avec un peu de produit pour protéger mon genou. C'est juste 200 trèfles à 4 feuilles, 2 pattes de lapin, 4 fers à cheval. Voilà, mais sinon je suis serein, je vous dis.
Ah oui, je vois votre sérénité.
Frottez-toi, toi.
Non, c'est quoi ça?
Non, c'est rien, simplement le coq de l'équipe de France que je vais sacrifier, je vais l'égorger à la mi-temps, par précaution, sinon je suis serein, je vous dis.
Bon, ce soir, on va croiser les doigts pour vous, Antoine.
Ah non, faut surtout pas dire le mot croisé. Non, ça, c'est pas bon pour les ligaments.
Ah,
non. Mais sinon, je suis serein.
Bon, écoutez, merci, je ne dis plus rien. Pour mieux prendre les possibles conséquences des réquisitions contre Marine Le Pen, on retrouve le meilleur expert police justice d'RMC, Vincent Moscato.
RMC, le super Moscato Show.
Je suis un peu le Ray Mirex d'RMC. Lui, c'est le spécialiste du droit. Moi, c'est le spécialiste des droites. Voilà. Tu fais bien de demander à moi l'analyse politique, tu vois, sur l'affaire Marine Le Pen, parce que c'est pas, elle se présente pas encore pas que dalle. Parce que moi, je te le dis, Marine Le Pen, elle voudrait aller au Bastic en 2027. Hein. Mais elle va finir au placard. Moi, c'est mon intuition, tu vois.
Oui.
Ouais, attends, je t'explique. Avant, t'avais Jordan, tu vois, Mandela, il était remplaçant le gosse tranquille, sur le banc de touche, en survêt, claquette, chaussette, tu vois, tranquille, faisait des selfies, couper les citrons. Puis là, t'as les juges, tu sais, les gosses, là, avec la grande cape, la rouge qui font peur, et le truc autour du cou, là, c'est un dalmatien mort, là, ou je sais pas quoi. Ils sont en train de regarder la barre, et là, c'est parfait, mais la Marine, elle est à deux doigts de prendre un carton rouge, tu sais. Tu sais à quoi je sens ça? D'abord, au pif. pif, je sens au pif. Et puis au fait que le Jordan est à échauffement, il a mis le protège-dail, surtout, il a scotché les oreilles à un chatterton. Et là, voilà, tu vois, tout le monde comprend que j'explique, tu vois. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études, tu vois, pour comprendre ça.
Et voilà. Nicolas Cantelou, merci à Rémi de rester avec nous. Nicolas Cantelou, qu'on retrouve donc dès demain à 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, le programme Alain.
Eh bien, dans les grandes gueules, on évoquera les Français, selon un sondage qui s'estime mal payé à 61% insatisfaits de leur salaire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à changer ça? Et puis, la France insoumise qui se retrouve classée à l'extrême gauche et furieux. Est-ce que le LFI est un parti d'extrême gauche? 32-16 pour venir commenter ça avec les grandes gueules.